19h, 21h, Time Foot spécial Euro 2021 avec Bilal Nenman.
Bonsoir à tous et c'est parti pour une nouvelle soirée Time Foot qui commence en ce premier jour de l'été. Et oui, et ce jour de fête de la musique, on le rappelle, le fameux 21 juin 2021, créé par un certain Jack Lang à l'époque. Et oui, au menu de cette émission, Time Foot, on reviendra sur le décevant match des Bleus face à la Hongrie, le groupe A ce soir avec l'Italie et le Pays de Galles. On en parlera sans oublier Suisse-Turquie. Un petit mot sur le Magic Verstappen, excusez-moi, en Formule 1, qui monte au créneau face au Britannique Lewis Hamilton. Et justement, on le rappelle, on est ensemble tout au long de ce mois de l'Euro, de 19h à 21h, avec toute l'actualité de vos nations préférées ainsi que les résultats. Donc soyez bien à l'écoute de vos émissions sport sur l'antenne de Beurre FM. C'est parti, Gogo Time Sport.
Time Sport.
On rappelle le numéro du standard avec Yanis, notre réalisateur, qui se fera un plaisir en ce début de semaine de vous faire passer à l'antenne le 01 53 48 3000. Et ce soir avec moi, pour m'accompagner durant cette première heure, on aura notre consultante Frédéric. Comment ça va ?
Ça va, au top. Bonsoir à tous et contente d'être parmi vous pour ce programme 100% foot, 100% euro.
Eh ben nous aussi, Frédéric. On aura Boula aussi avec Hervé, sans oublier Yacine. Comment ça va, Yacine ?
Ça va, hein. Mais bon, après, je suis pas d'accord quand vous parlez de l'équipe de France qui a fait un mauvais match contre la Hongrie.
Ah, bah, c'est ce qui a été dit, Yacine. Il faut l'accepter, Yacine. Tu vas pas commencer comme ça. Mais oui, Yacine.
C'est moi qui le respecte.
Alors, on manque de respect à tout le monde. Allons.
Ah, si, vous m'avez manqué de respect.
On va en parler.
Plus casse, quand même.
Ouais.
Devant 60 000
personnes.
Bah oui, j'aurais pu
m'aider. La Hongrie a le droit d'avoir fait un bon match.
Voilà, c'est Rudy. Rudy qui est avec nous.
Non, elle a pas fait un mauvais match. Ici, là, le débrief d'avant-match,
ouais.
quand tu as fait le tour
pour les pronostics.
Alors moi j'ai dit quoi ?
1-0, tu m'avais dit.
Voilà.
Mickaël avait dit 6-0 pour la France. Bon, Mickaël,
je sais pas. Je comprends pourquoi il a dit ça.
Il y a eu un partout ou 1-0 ?
Il est passé par la Guyana. Hein.
C'est pas étonnant.
Partout.
Tout le monde avait dit
4-0 avec Alisson ou 3-0.
Voilà, Alisson avait dit 4-0.
2-1, je crois, Marion.
Marion, elle a dit 2-0.
2-0 ? On avait eu aussi, c'était pas le coach Tollet, je sais plus, on avait...
Non, c'est plus le Claude Tollet, mais c'est le Hadj Tollet.
Ah, tu peux pas dire ça.
Ben, si.
Tu peux pas. Ouais, tu peux pas dire ça.
En tout cas,
on le rappelle. Pour nos auditrices et les auditeurs de Beurre FM, ce soir, on sera en compagnie de Boyata, fervent supporter de la Squadra Azzurra, justement, pour parler de cette équipe qui est l'Italie. On va s'attarder sur le premier sujet justement de cette première heure d'émission Time Foot. Oui, je t'ai présenté, j'ai fait une passe D directement. On est avec Rudy aussi. Il faut suivre. Je l'ai bien dit. Je l'ai bien dit. Arrête de dire n'importe quoi.
Ils arrivent.
Là, on est en émission justement, on est avec Rudy. Alors Rudy, comment ça va ?
Je vais très très bien et je suis très content d'être avec vous.
Ah ben nous aussi. Alors, on va s'attarder sur le premier sujet de cette émission qui est la France-Hongrie.
Time Sport, le ras-le-bol.
Et justement, voilà, un petit clin d'œil. On a les invités qui sont arrivés ce soir. Yacine, la Hongrie face à l'équipe de France. Oui, c'était pas armes égales, Fred. Hein. C'est bien ça, Frédéric. Hein. On avait un stade qui était plein à craquer.
Visiblement, ça a gêné Griezmann, le stade plein à craquer, puisqu'il a dit après le match que ça les avait perturbés, le bruit que le public avait fait et qu'ils avaient eu du mal à s'entendre. Non, ce qu'il faut dire par rapport à ce match, c'est qu'on l'a suffisamment dit, il n'y a plus de petites nations, il n'y a plus de petites équipes, il ne faut pas prendre des équipes de haut en se disant « Allez, on va gagner 3-0, nous sommes la France ». Alors, ce qui a fait la force de la France face à l'Allemagne, finalement, ça a fait sa faiblesse face à la Hongrie. Ça veut dire le milieu de terrain, Pogba, Rabiot, ils ont été défaillants. La défense était très fébrile et on a vu malheureusement notre cher Benjamin Pavard avoir beaucoup de mal et être en grosse difficulté. Et notre attaque que tout le monde nous enviait avant le début d'Euro.
Ouais, Karim Benzema n'arrive pas à marquer parce que Zidane n'est pas là. Il y en a qui disaient ça. Il y en a qui ont dit ça. Voilà, il faudrait peut-être sur le banc.
C'est une malédiction du numéro 9 finalement.
Zinedine Zidane.
Giroud n'avait marqué aucun but en Coupe du Monde et malheureusement pour le moment Karim Benzema a du mal en ce début d'Euro. Mais on espère qu'il va marquer. On espère qu'ils vont avoir les automatismes.
Ah ben pourquoi pas, Yacine.
J'écoute Fred. J'ai l'impression que la France elle a joué toute seule. Mais en face il y avait une équipe hongroise qui s'est préparé en conséquence, donc c'est un adversaire quand même qu'il faut respecter. Il y avait 60 000 personnes pour une première fois, ça fait très longtemps, on n'a pas vu autant de monde dans un stade. Ce qu'avait dit Griezmann, c'est pas faux, hein, quand on prend l'habitude de jouer dans un stade vide, pour les gens qui ont joué au football, quand il y a du monde, on a l'impression qu'on n'entend plus personne. Et ça, dans les automatismes, ça peut énormément jouer. Ils ont, et on change d'habitude. Il y a beaucoup de paramètres qui ont influencé la prestation de l'équipe de France. Après, moi, je trouve pas que c'est catastrophique. C'est un tournoi. Comment on peut jongler avec les prestations.
Ouais.
Et pour Benzema, j'ai l'impression que tout le monde l'attend au virage. Il faut qu'il marque à tous les matchs. C'est pas vrai. Mais c'est pas vrai, faut qu'on arrête à un moment donné de
caricaturer.
Faut qu'on arrête à un moment donné Mais on a l'impression aujourd'hui que Benzema ne sait pas jouer au foot. C'est juste incroyable.
Alors,
c'est juste incroyable.
Non, ouais, mais peut-être qu'il a beaucoup plus de pression, Karim Benzema.
Il y a tellement de pression
sur lui.
Le débat autour de Benzema.
On va voir après un mot avec notre invité.
Moi, je pense que le problème de Benzema, déjà, c'est le fait de pas être revenu suffisamment tôt en équipe de France pour trouver des automatismes avec cette équipe. C'est le fait aussi que Didier Deschamps ait tenté le pari Benzema pour changer son fusil d'épaule et être moins prévisible dans le jeu, alors que on avait critiqué que son jeu était plutôt stéréotypé lors du mondial, etc. Ça a très bien fonctionné. Et je pense qu'il voulait être moins prévisible. Le problème, c'est que cette équipe de France n'est pas habituée à jouer dans le même type de jeu que Benzema est habitué à jouer, c'est-à-dire une équipe qui a quand même un petit peu de possession, 60-70% dans ces eaux-là. Donc ça veut dire en fait que l'équipe de France.
C'était pas le cas contre l'Allemagne, hein.
Contre nature, entre guillemets, auquel elle n'est pas suffisamment habituée. Et pour Benzema, malheureusement, il n'a pas trouvé les automatismes qu'il faut. Maintenant, la manière dont lui répond sur le terrain. Moi, je trouve qu'il a les bons mouvements. Mais quand je reviens sur Hongrie-France, il a fait, en fait, si tu veux, lorsqu'il se retrouve en position de marquer, il fait des mauvais choix. Il essaye de mettre un extérieur du pied droit, il essaye de tenter un petit pont, etc. Au lieu, en fait, d'être dans la spontanéité du geste, comme le ferait, je sais pas moi, un Suarez, etc. Donc c'est ça, en fait, je pense qu'il doute de lui.
Donc Benzema devait prendre exemple sur Suarez pour jouer au football.
Je m'en même pas sur ce terrain, c'est parce que
non.
J'ai...
Je pense
que Benzema doute un peu de lui. Je pense qu'il y a une pression énorme sur ce premier but qui est censé ouvrir les vannes pour qu'il se sente à l'aise et continue de marquer. Il faut qu'il se libère de la pression. Et lui, à l'image de l'équipe de France, était moins dans le duel. Après, peut-être il faisait trop chaud. Après, il faisait chaud pour les Hongrois aussi. Mais tu vois, moins de spontanéité, moins de détermination, etc. Ça joue lentement. Même le but qu'on se prend, il est dégueulasse. Varane qui couvre mal, Kimpembe qui
met. S'il n'y a pas de faute, s'il n'y a pas de faute, il n'y a pas de but. S'il n'y a pas de faute, s'il n'y a pas de faute, il n'y a pas de but.
Du but que l'équipe de France.
Oui, mais s'il n'y a pas de faute, il n'y a pas de but. L'équipe de France, ouais. La défense française ne peut pas être exempte de tout reproche.
C'est pas le souci. Moi, je suis en train de dire, en fait,
à un moment donné, il faut faire des fautes.
Oui, mais je dis, en fait, cette équipe de France a manqué de fraîcheur, de détermination dans le contact, là où la Hongrie avait mis ses talents. Et là, l'équipe de France doit régler ça tout de suite parce que contre le Portugal, il va falloir être déter sur le terrain.
On se rend compte, justement, de toute façon, que l'équipe de France a souvent du mal. Contre les équipes qui jouent comme ça très défensivement, qui jouent en bloc. On l'avait déjà vu il y a quelques mois contre la Finlande.
Ouais.
On l'avait également vu contre la Turquie. De toute façon, ce qu'on peut retenir, c'est que l'équipe de France, en Coupe du Monde 2018, avait également fait un match nul contre le Danemark dans les phases de poule. Et on avait vu au final, on était champion du monde. Donc tout n'est pas à jeter dans la prestation de l'équipe de France. Moi, je pense qu'il y a eu quand même des choses qu'on peut retenir. Maintenant, il va falloir se réveiller assez tôt parce qu'il y a un match contre le Portugal qui arrive. Il va falloir qu'on retrouve notre football qui a fait justement le succès de l'équipe de France. Que Benzema ne se mette pas autant de pression parce que le but va venir. Je pense qu'il a tout pour marquer. Maintenant, il faut juste qu'il s'enlève ce problème qui, pour moi, est mental.
Ça. C'est la pression.
C'est la pression, finalement, qui est mentale. Et le fait qu'ils aient pas joué ensemble depuis plus longtemps. Comme tu disais tout à l'heure, tu disais, on l'attend. Bien sûr qu'on l'attend parce que c'est Karim Benzema. C'est l'un des meilleurs attaquants du monde. On attend forcément plus de Benzema qu'on attendait de Giroud. Mais je pense que ce retour de Benzema et puis les matchs qu'on voit en ce moment, ça a quand même montré, il y avait un, on a vu une espèce de romantisme dans le football. Tout le monde disait Benzema est de retour, l'équipe de France va mieux jouer. Moi, je pense qu'il faut qu'on attende de l'équipe de France qu'elle fasse ce qu'elle sait faire.
D'autant
qu'on a
plus
vu
que
en
regarde
2018,
Giroud,
et je pense que ça va très bien fonctionner
match
par rapport aux autres nations.
Il est rentré, il a marqué, tu vois.
Et que on va se qualifier, il n'y aura pas de soucis.
Mais voyez avec nous, justement, notre artiste, pour la première fois sur l'antenne de Beurre FM, on l'écoute avec cette équipe de France, version Karim Benzema.
Déjà, bonsoir et merci de m'avoir invité. Ça fait super plaisir. Et moi, je suis un fervent supporter de Karim Benzema parce que je trouve que c'est un formidable joueur déjà à la base. Il n'a pas besoin du ballon pour s'exprimer. Dans ses déplacements, déjà, il fait la différence. C'est un joueur qui sent les coups. Après, en équipe de France, j'ai un peu de mal parce que je trouve que c'est une équipe qui a été justement prédéfinie pour Giroud. Parce que voilà, c'est un joueur qui monopolise beaucoup le ballon, un joueur de pivot. Ouais, mais même Mbappé, il se déplace mieux quand il y a Giroud, je trouve. Voilà. Et que quand il y a Benzema, il trouve une facilité. Voilà, les automatismes. Maintenant, moi, je suis un fervent supporter de Benzema, mais je trouve qu'en équipe de France, il est pas à 100% de ses moyens, surtout que je pense que la configuration et le système mis en place ne lui correspond pas. Après, je pense que contre la Hongrie, ils se sont vus trop beaux, parce que normalement, même si la Hongrie a été plus motivée et plus déterminée, normalement la France devait l'emporter.
Toujours en retard dans les contacts, etc. Enfin, les duels, c'était impressionnant. Mais moi, je pense effectivement l'un des problèmes, c'est que Deschamps, c'est un peu l'école à la Jacquet, le Juventino, tu vois. Et d'abord, il défend bien et tout. Déjà, même l'équipe de France, je trouve qu'elle défend pas si bien que ça par rapport à ce qu'elle nous avait montré. Et en plus de ça, les prétentions qu'il a à vouloir créer du jeu, je dis pas qu'il faut pas le faire, parce que de toute façon, on est attendu là-dessus. Les schémas préférentiels, centre de Pogba, déviation de Giroud pour ça, effectivement, c'est peut-être trop prévisible. Mais est-ce qu'il fallait pas faire revenir du coup Benzema plutôt en équipe de France pour travailler ses automatismes?
Bien sûr, je suis d'accord.
Là, je trouve qu'on est un peu en retard par rapport à cette montée en puissance que l'équipe de France devait avoir.
Après, Bilal, il faut pas se laisser aveugler par le match, par le match nul contre la Hongrie, pour la simple et bonne raison, c'est que c'est qu'un match nul. Il faut rappeler tous les éléments de contexte, la chaleur. L'équipe de France n'a pas l'habitude de jouer sous 38 degrés. Yacine l'a très bien rappelé tout à l'heure, il y avait 60 000 supporters hongrois qui étaient chauds et qui mettaient une pression de malade sur l'équipe de France. Après, il faut pas tout remettre en question. On n'a pas pris de but contre l'Allemagne alors que c'est l'Allemagne en face. L'Hongrie a marqué sur sa seule occasion. Donc de dire qu'il y a un problème de défense, c'est un petit peu exagéré. Certes, on a peut-être un problème avec Benjamin Pavard sur le côté droit, mais aujourd'hui on n'a pas spécialement de solution pour pallier sa présence. Jules Koundé, on l'a pas suffisamment testé pour pouvoir le mettre. Et pour revenir sur le cas de Karim Benzema, tout est une question d'automatisme. Aujourd'hui, on a pris un pari, c'est-à-dire de le prendre aujourd'hui directement et l'intégrer dans la compétition et l'intégrer dans le 11. Et on a vu que le jeu de l'équipe de France est sublimé. Ça joue beaucoup mieux qu'en 2018, on disait que l'équipe de France était moche. On avait Giroud qui servait de point d'appui, on était efficace, mais ça n'allait pas plus loin que ça. Aujourd'hui, avec Benzema, on a une animation offensive qui est beaucoup plus intéressante, mais il faut prendre les choses point par point et ne pas se précipiter en se disant c'est pas parce qu'il a pas marqué pendant deux matchs que l'animation n'est pas bonne. L'animation est bonne, mais ça prend du temps.
On va revenir sur le cas de l'équipe de France et aussi de Karim Benzema, c'est promis. Une courte pause avant de revenir avec vous, chers auditrices et auditeurs de Beurre FM. À de suite.
Time Foot spécial Euro 2021 revient dans un instant. 19h, 21h, Time Foot spécial Euro 2021 avec Bilal Nenman.
Eh oui, notre invité, on le rappelle, l'artiste Boya qui est avec nous sur l'antenne de Beurre FM. Une large pub on a fait. Eh oui, une pause plutôt. Mais on est toujours en compagnie. Allez, il y a Saïd qui nous a rendu visite. Il y a Rudy, Yacine. Voilà, le petit sourire, Yacine. C'est pas parce que Boula, il vient juste d'arriver que ça, tu commences à perdre le sourire. Et Frédéric, il est là quand même, Boula. Comment ça va, Boula?
Ouais, ça va très bien.
Ça va bien?
Ça va.
Ouais, tranquillement. Ah ben, on va voir. Ah ben, on va voir, Boula. On va parler de l'Italie face au pays de Galles. C'est parti.
Time Sport. Le duel.
Eh oui, en fait, c'est les Italiens qui croquent le pays de Galles. C'est bien ça, Bouya?
C'est ça. Ouais. Bah, depuis le début, ils ne croquent pas que le pays de Galles.
Ouais, tout le monde, c'est vrai. Dommage, déjà qualifié, quoi.
Ouais, je suis très content, c'est mon pays. Bon, je suis d'origine italienne.
Ouais.
Donc, je supporte l'équipe d'Italie depuis tout petit. J'en ai vu passer des générations. On sait que là, il y a eu une bonne période de disette avec beaucoup d'années d'absence en compétition. Là, on revient avec une nouvelle génération, une nouvelle structure. On a tout reconstruit et on compte bien, j'espère, gagner l'Euro, quoi.
Largement dominatrice, ces Italiens.
Ouais, sur tous les plans de jeu. Franchement, je suis très content.
Cette équipe, plutôt.
Ouais, je suis très content parce que, bon, hier, on a joué avec l'équipe B, on va dire, entre guillemets, parce qu'il y avait quand même Verratti.
Ouais.
Et je suis très content parce que même avec cette équipe-là, on a montré un bon esprit. Bon, c'était pas à l'échelle de l'équipe A, comme on va dire, mais j'ai vibré quand même, tu vois. J'ai senti cet engagement, ce pressing que Mancini l'a mis, ce dynamisme et ce réalisme, surtout sur le coup franc de Verratti, sa passe décisive et la frappe petit filet. J'ai vibré comme d'habitude. Forza Italia!
Il nous fait vibrer. C'est ça. Et en tout cas, il nous fait vibrer.
Passionné, moi.
Le passionné, ouais, ils nous ont faux sur l'antenne de Beurre FM. Frédéric, eux, ils sont permis de jouer avec l'équipe B, comme il a dit. Nous, ça va pas être possible pour le match face au Portugal.
On va pas manquer de respect aux joueurs.
Ouais,
pas l'équipe B.
C'était l'équipe abyss.
Tu parles parce que l'équipe de France n'a pas fait mieux.
On rappelle quand même que le groupe de la France est largement supérieur au groupe de l'Italie. Il y a l'Allemagne et le Portugal à côté. Non, cette équipe d'Italie, elle est formidable. Elle monte dans le jeu, qu'elle est présente. Petite stat, c'est quand même la seule équipe de l'histoire de l'Euro à gagner tous ses matchs dans des phases de poule et à encaisser aucun but. Donc, ils sont encore sur leur série de 30 matchs consécutifs sans défaite. Maintenant, ce qui va être intéressant, c'est de les voir à partir des huitièmes de finale, déjà contre l'Ukraine et potentiellement en quart contre la Belgique. Parce qu'on n'a pas vu cette équipe d'Italie contre une équipe vraiment du, je sais pas, top 10 au niveau du classement FIFA. Donc, je pense que ça va être ça le révélateur. Et tu nous as parlé de la présence de Verratti. Remplaçant, mais ça va être intéressant parce que ce milieu a très bien fonctionné sans lui, avec Locatelli, Barella et Jorginho. Va falloir voir maintenant si Mancini va le titulariser ou alors s'il va chauffer le banc.
Bah, je pense qu'il va le titulariser, hein, parce que quand Bonucci est sorti, à qui il a donné le brassard?
Il a
donné à Verratti. C'est-à-dire qu'il compte sur lui. En plus, Verratti, pour la petite stat, je vous la donne, c'est que sur ce match-là, c'est le mec qui a touché le plus de ballons, 139. Le deuxième qui a touché le plus de ballons, c'était Bastoni avec 93. Ouais. Donc on voit déjà l'écart de classe qu'il y a entre lui et les autres milieux de terrain et les autres joueurs. Tout court, c'est lui qui fait la passe décisive. Certes, c'est un petit peu cruel pour Locatelli parce que je vois pas Barella ni Jorginho sortir du 11.
Ouais.
Mais ça va être cruel pour Locatelli parce qu'il a mis son doublé. Mais malheureusement, je pense que c'est lui qui va perdre sa place. Mais c'est aussi le juste retour des choses. Ça veut dire que quand tu pars avec le 11, il savait déjà dans sa tête que c'était Verratti le titulaire. Il était un petit peu en méforme. C'est pour ça qu'il a pas joué les deux premiers matchs.
Ouais.
Mais quand il revient tout de suite, il est prêt. Et en plus, on l'a vu, Mancini l'a laissé jouer 90 minutes. C'est-à-dire qu'il a même pas besoin de jouer une heure, de prendre son rythme. 90 minutes, il les a tout de suite dans les jambes. Donc, à mon avis,
il est prêt. Hein. Justement, ces Italiens, Boula, avec Boya aussi, notre invité, on le rappelle.
Comme ça, quand les gens ils font leurs analyses.
Oui, alors.
Mais on parle de Verratti.
Oui.
Verratti,
Marco Verratti, le Parisien.
Verratti, il faut savoir que c'est un joueur qui revient de blessure.
Aussi.
Avant sa blessure, ça a été le patron de l'équipe italienne. Donc aujourd'hui, on parle plus de termes de remplaçant. Il revient de blessure, c'est tout à fait normal qu'il y avait une équipe qui était en place. Il faisait confiance à son équipe, c'est ça la force d'un entraîneur. Alors peut-être un autre à sa place aurait déjà titularisé Verratti dès le départ. Il lui a donné tout le temps de revenir. Et en même temps, le fait que Verratti ait vu, parce que souvent à Paris, on l'a accusé de plein de choses sur son hygiène de vie, sur sa façon de fonctionner et tout ça. Et là, avec l'Italie, dès qu'il est rentré, il a saisi sa place, il a saisi sa chance. Il a montré de quoi il était capable. Hein, en fin de compte, c'est le vrai métronome de cette équipe italienne. Et imagine, là, on parle du réaménagement qui a été fait par Mancini, où il a changé, il a mis 8 joueurs. Moi, je dirais pas 8 nouveaux joueurs, parce que c'est un effectif assez riche, cette équipe italienne. Donc, moi, ce que je demanderais de voir, c'est encore, peut-être, si aujourd'hui ils sont forts, qu'est-ce que ça va être avec tous les titulaires de cette équipe italienne, plus Verratti. Je pense que ça va être très compliqué de pouvoir les battre. Je l'avais dit il y a 6 mois de ça, parce que les gens, ils fonctionnent souvent, comme dans la vie, ils fonctionnent souvent au jour le jour. Hein, c'est que quand ça marche, ils disent que ça marche. Mais quand l'Italie est au creux de la vague, je ne connaissais pas beaucoup qui auraient payé...
Moi j'étais là. Je les ai suivis. Bon, j'ai pleuré quand ils sont pas qualifiés la dernière fois, mais j'ai vu toute la reconstruction, tout le travail qu'il a fait Mancini, et je savais qu'ils avaient déjà, ils ont la dalle, parce que même au niveau du public.
Tout le monde ne savait pas, même en Italie.
Non, mais déjà le public italien, c'est.
Il y a un point que tu dis, c'est bien, parce que quand tu dis Mancini, Verratti, il a l'image de Mancini, parce que le Verratti du PSG, c'est pas le Verratti de l'équipe d'Italie. Et aujourd'hui, tactiquement, défensivement, au niveau des réglages, il est plus discipliné, Verratti. Et c'est ça qui fait la force de l'équipe d'Italie et qui fait la force de Verratti.
Il est obligé d'être discipliné, sinon
je te dis pas qu'il est obligé. Je te dis que aujourd'hui, il est sur l'image de son coach. Si tu regardes cette équipe, elle est l'image du coach. Et tu regardes par rapport à ce que les Italiens que j'ai connus à l'époque, ils jouaient vachement défensif.
C'est ça.
Et aujourd'hui, ils ont une qualité, ils montent un peu plus haut. C'est ce que l'équipe de France ne fait pas.
C'est ça qu'on aime
avec les joueurs.
C'est ça qu'on aime. Voilà. Parce que franchement, l'équipe d'Italie.
J'ai un petit vraiment un petit détail sur un joueur.
Alors voilà.
Donc j'ai vraiment de la peine pour lui et je l'ai vu au PSG faire vraiment quelque chose. C'est Moïse Kean. Parce qu'il a le potentiel.
Moïse Kean ne le voit pas jouer.
Moi je le vois pas. Moi je le vois. Mancini,
c'est des soucis de comportement.
Ouais. Mais je le vois pas, moi, dans cette équipe. Je le vois pas.
Ouais, mais toi, tu le vois pas, mais je te parle de ses performances au PSG. Je pense qu'il a un potentiel.
Un potentiel.
Pour être dans un groupe. Je te dis pas pour être titulaire. Ouais, mais dans un groupe. Faut pas oublier un mec comme Moïse Kean. Il a prouvé à Paris qu'il avait un talent.
C'est un jeune joueur.
Et puis, c'est un joueur qui n'a pas besoin de beaucoup d'occasions pour marquer. Et aussi, il apporte aux équipes dans lesquelles il joue, enfin en tout cas quand il est bien, ne serait-ce que par son activité sur le terrain. Mais pour revenir effectivement à ce qu'on se disait sur l'Italie, moi ce que je trouve intéressant, c'est que c'est une équipe qui s'est transformé par rapport à, on va dire, à son système tactique. On peut même parler de tradition, parce que c'est traditionnel. Effectivement, on parlait du Catenaccio, etc., à l'époque et tout. Mais alors que pourtant, j'ai le sentiment que ces joueurs sont d'un calibre moins puissant que, je sais pas, par exemple, l'Italie de 2006, par exemple, tu vois. Il y a beaucoup de jeunes joueurs qui sont très bons, qui jouent dans des, je trouve que c'est pas le même niveau. Mais par contre, ils développent
un esprit coach,
collectif.
C'est pas le même coach, hein, parce que.
Ils développent un esprit collectif qui leur permet de sortir des performances.
Moi, je les préfère aujourd'hui. Je les préfère aujourd'hui.
Et effectivement, ce qui est aussi intéressant avec avec l'Italie, c'est que, ils jouent ce football un peu hybride, en fait. C'est-à-dire, bloc bas, on sort vite, bloc haut, etc. Voilà. Et ils ont
la révolution
toujours,
Montini. Voilà,
Mais non, mais en fait, tout le monde joue un petit peu comme ça.
Révolution Montini.
Pardon, juste pour terminer là-dessus. Par contre, voilà, peut-être que, moi, j'avais donné des pronostics la dernière fois. Qui se sont plutôt a priori révélés payants, parce que
comment il se met bien là, comme ça rentabilise, mais
par contre j'ai peur qu'effectivement on surcote un petit peu cette équipe, alors que quand elle va se retrouver en huitième de finale, etc., face à des équipes qui savent en fait gérer la pression athlétique, que ce sera un petit peu plus difficile.
Justement, c'est en disant ça que tu la sous-cotes, parce que il y en a pas beaucoup qui je parle en tant que footballeur je parle pas en tant que supporter.
On en a vu beaucoup des matchs, hein.
Et moi je sais qu'il y en a beaucoup qui sous-cotent tout le temps à toutes les compétitions l'Italie, et à chaque fois on les attend pas et ils finissent toujours dans le dernier carré. Enfin, quand ils ont été présents. Moi, je dis qu'elle est sous-cotée parce que à chaque fois, j'entends, il faut un adversaire beaucoup plus puissant devant eux pour voir. J'ai pas besoin de ça, moi, pour savoir que mon équipe.
Ça, on l'entend en France.
J'ai pas besoin de ça.
Ça, c'est un discours français. Ça, c'est un discours français. Là, on dit souvent.
Je suis confiant. Non,
je parle pas de vous. Je parle pas de vous. Je parle pas de vous. Je parle en général. Ils disent, on va voir l'Italie contre. Comme si l'Italie, toutes les équipes qu'elle a rencontrées, ça fait 30 matchs qu'elle n'a pas perdu. Oui. 30 matchs sont défaites. D'ailleurs, ils ont égalé le record de la Squadra Azzurra de 1939.
L'Algérie, c'est 27.
Ouais, c'est...
Et moi, leur dernier match contre les Pays de Galles.
Ouais.
Les Pays de Galles, c'est pas des pieds carrés. Hein. Ils savent très bien jouer au football.
Ça joue pas mal.
Et ils ont avant de venir affronter l'Italie, ils se sont préparés en. Je vais vous dire une chose. Laissez-moi finir quand même. Laissez-moi parler.
Vas-y, Yacine.
Et l'Italie telle qu'elle est aujourd'hui, elle va trouver beaucoup plus de facilité à jouer les grandes nations que les petites nations, parce que les petites nations jouent les matchs de leur vie face à des équipes comme l'Italie. Par contre, les autres équipes, vous allez voir, l'Euro, j'espère qu'elle ira jusqu'au bout, parce que moi aussi, j'ai jamais aimé l'Italie, j'ai jamais supporté l'Italie, mais avec Mancini, on sent qu'il y a du football. C'est vraiment ça.
Moi non plus,
j'ai jamais supporté l'Italie.
Quand tu dis que t'as jamais supporté l'Italie, ça reste des grandes équipes au monde,
oui, après,
des grandes nations au niveau du football.
J'ai l'impression.
Je trouve qu'il faut quand même rester mesuré et tempéré.
On s'emballe pas du tout.
Non, ils ont 3 matchs, 3 victoires, quand même. 7 buts.
J'entends quand même Yacine nous expliquer que cette équipe-là aura plus de facilité contre les grandes équipes, mais il faudrait déjà qu'elle se confronte avec une équipe. On peut pas évaluer le niveau de l'Italie aussi facilement.
On va y arriver. On va y arriver. En 2006, l'Allemagne nous les a éliminés chez eux, organisateurs. On n'a pas peur. On n'a pas peur.
Elle est confiante.
Moi, j'aimerais.
L'Italie, c'est un vrai pays de football.
Et c'est la première fois que je les vois jouer comme ça. Merci Mancini. Merci beaucoup.
J'aimerais bien voir cette équipe jouer contre une équipe qui défendent durement, parce que je trouve que les petites équipes qu'ils ont rencontrées, sans vouloir leur manquer de respect, effectivement, elles proposaient du jeu. Donc du coup, c'était plus facile pour l'Italie de trouver des espaces, parce qu'elles aspiraient un petit peu.
Je comprends pas ce que tu dis. Elles défendent durement une équipe qui défend durement.
Le but, il est venu sur une boule.
Si tu me laisses aller jusqu'au bout de ma pensée, tu
vas-y. Ouais, mais t'as des longues pensées des fois. Justement, box to box, Rudy. Box to box.
Yacine, il a eu un plaidoyer de 3 minutes tout à l'heure. Personne ne lui a rien dit. Sa casquette est restée vissée. Donc à un moment donné.
Ah là 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 là. Mais comment tu fais là?
C'est que lorsque il va,
tu n'es pas là pour nous faire une.
plaidoirie d'avocat. Lorsque, tu fais ta plaidoirie de pas d'avocat.
Vas-y, vas-y.
Donc maintenant, lorsqu'elle va se confronter à une équipe qui joue beaucoup plus serré,
et encore,
beaucoup plus bas, avec, enfin, pas forcément plus bas, mais en tout cas, un bloc beaucoup plus serré, moi, je me demande si ça va, ils vont avoir autant d'aisance à se trouver dans les espaces. Voilà, c'est tout.
Mais la Turquie, c'était censé déjà être un outsider.
Ouais.
La Turquie, oh, attention, ils sont
la Suisse
forts.
Face à la Turquie, on en parle aussi.
Bah oui,
mais la Turquie, elle a sombré.
Bien sûr, elle a sombré.
Ça,
dans tous les compartiments. Faut reconnaître que sur trois matchs, ils gagnent avec la manière.
Mais bien sûr.
Ils gagnent avec la manière. Techniquement, il y a de la qualité.
On se régale.
La patte gauche, là, sur les deux buts qu'il met, là, tu sens que le mec, il sent le but.
Quand tu regardes les buts, quand tu regardes le placement des défenseurs, comment les joueurs sont alignés, c'est franchement.
Non, mais de toute façon, quand tu marques un but, c'est forcément, il y a de l'erreur dans l'adversaire.
Quand tu dis le défenseur,
c'est forcément que l'adversaire fait une erreur quand tu marques un but.
C'est pour ça que je dis, face à une équipe qui est beaucoup plus costaud
défensivement. On a Frédéric.
Tu arrives à traverser en 2-3 passes, t'as déjà.
On a rien fou.
Pas avant 7 euros. Pas avant 7 euros.
C'est moyen.
Il y a une différence.
Cherche pas la Turquie, c'est moyen. Très, très moyen.
Oui.
Franchement, grosse
défense. Non, attendez, attendez. Sur côté.
Non,
la Turquie.
Allez, la Turquie.
La Turquie.
Par la Suisse.
La Turquie n'était pas surcotée. Autant ils ont raté leur euro, on est tous d'accord. Ils font 0 points, mais ils ne sont pas surcotés.
C'est ça.
Il faut regarder.
Alors, laisse-le terminer. Allez, vas-y.
On ne
comprend rien, la Turquie.
Allez, vas-y. On va voir.
Pour une équipe très, très moyenne. Pendant les éliminatoires, ils ont pris que 3 buts. Alors que là, au premier match de l'Euro, ils en ont pris 3. Donc pendant les éliminatoires, ils ont pris que 3 buts. Donc c'est pas mal pour une équipe moyenne. Deuxièmement, ils ont battu la France. Ils ont battu la France 2-0. C'est pas mal pour une équipe moyenne. Et ils ont battu les Pays-Bas. C'est pas mal pour une équipe moyenne.
Boula, la réaction de Boula, Rudy.
Quand tu me dis la Turquie, quand tu vois dans l'axe, c'est très très moyen. Quand tu vois le mec qui met le but contre son camp à ce niveau-là dans le championnat d'Europe, tu te dis mais attends,
attends, t'as vu le Portugal,
ça arrive.
Ça veut dire que Ruben Dias et Rafael Guerreiro, ils sont nuls aussi. Allons au bout du jeu.
Exactement. Là, on parle de championnat d'Europe, on parle de.
Allons au bout de la logique dans ce cas.
Non, mais là, on parle pas de R1, de première division. Là, on parle du haut niveau. C'est là que tu vois les cracks et les gros.
Mais le Portugal, Rafael Guerreiro et Ruben Dias qui marquent deux buts contre leur camp.
Tu vas me dire, c'est un joueur. Tu vas pas me dire Pépé, c'est fini, même Ramos,
il était en quart de finale de Ligue des Champions,
ils l'ont même pas pris en équipe d'Espagne.
C'est le premier match du Portugal
quand ils ont mis 3-0 à la Hongrie, tout le monde les voyait en finale de l'Euro.
C'est vrai.
Et le deuxième match contre l'Allemagne.
Portugal-France.
Et il y a deux joueurs qui marquent contre son camp.
Au Portugal.
Ça arrive bien n'importe quel match.
Une courte pause.
C'est des
faits
de jeu.
On revient avec Boya, notre invité. Merci, Rudy.
Mais ça arrive avec un effectif complet.
Alors, on va faire une courte pause avant de revenir avec vous tous. C'est bon.
Faut que ça étale.
Allez, on y va.
Time Foot spécial Euro 2021 revient dans un instant. 19h, 21h, Time Foot spécial Euro 2021 avec Bilal Nenman.
Tour sur l'antenne de Beurre FM pour la dernière partie. Voilà, on entend des petites dédicaces. Quoi. Sarcelles, c'est ça ? Voilà, Sarcelles. On passe le bonsoir à tout Sarcelles. C'est ça, Boula ? Ouais, quand même, Boula, avec nous. Et Yacine, Boya, notre invité ce soir, pour la première fois avec nous sur l'antenne de Beurre FM. Il aime beaucoup, justement, cette émission. Il la trouve assez, assez fun. Rudy et Frédéric. Frédéric, on revient un peu sur ce match de ce week-end. Oui, opposant les Suisses, les Helvètes aux Turcs.
Oui, pour revenir
ils
sur
ont un
ce
peu
match.
Trop sombré. Zéro pointé.
C'est ce que je voulais dire tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on a une équipe turque qui a fait une bonne préparation, qui a fait de bons matchs amicaux, qui avait été bien aussi dans les matchs qualification. Mais il y a une différence entre les matchs de qualif et la compète.
Ouais.
On a senti que physiquement, cette équipe-là n'était pas prête. Et mentalement, c'est effondré après la perte du premier match. Elle se retrouve quand même à 3 défaites, 8 buts encaissés pour un tout petit but marqué. Donc je pense quand même que cette équipe turque a complètement sombré. Et en face, on a eu une belle équipe suisse qui finalement s'est dit qu'elle pouvait être troisième dans les meilleurs troisièmes, qu'elle avait une chance de se qualifier en huitième de finale. C'est ce que le coach a dit. Il a dit qu'il visait de toute façon les huitièmes de finale pour faire aussi bien que la compétition précédente. Et on a vu un grand Shaqiri. Finalement, ce Shaqiri qui a marqué depuis 2014 dans les grandes compétitions plus de 50% il a participé à 50% des buts de son équipe. Donc je pense que la Suisse a fait un bon match et la Turquie a révélé son niveau et finalement n'aurait peut-être pas dû se qualifier pour l'Euro.
Ouais. Justement, voilà, Yacine.
Je trouve que Frédéric, bon, même si son raisonnement tient la route,
mais je la trouve un peu dure avec, avec l'équipe turque.
Alors,
je
et pourquoi
pense que, jusqu'à leur qualification il ne souffre d'aucune contestation.
Ah oui.
Mais malheureusement, ils sont passés complètement à côté de leur tournoi. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Ça devait plus avoir des DLC comme dans toutes les sélections. Il doit avoir certainement des clans. Parce qu'on le sent quand ils jouent, j'ai l'impression qu'il y a des clans. Et quand ça, quand il y a des clans, ça explose. Et on les a vus contre les Suisses. À un moment donné, ils arrivaient à retrouver un petit peu leur longévité. On les sentait vraiment rapides, et même s'ils étaient inefficaces. Mais c'est vraiment la plus grande, pour moi, c'est la plus grande déception de cet Euro. C'est cette équipe turque sur laquelle on s'est dit peut-être qu'elle pouvait jouer les troubles faites. Malheureusement, elle ne sortait pas. Là.
Toute alors,
petite fenêtre.
Ouais, la porte aussi. Ouais, voilà. Moi, et on le dit aussi. Oui.
Moi aussi, je suis déçu parce que voilà, je les voyais au qualif et je me suis dit, bah, j'ai beaucoup de potes turcs. Et vous savez comment. Je me suis dit.
Un vrai amateur de kebab. Hein.
Non, je me suis dit, c'est dommage parce que c'est une bonne équipe. Ça faisait longtemps qu'on les avait pas vus à ce niveau pendant les qualifs. Et après, on arrive à la compétition, on est tous déçus. Mais je pense que, ouais, il y a d'autres facteurs qui peuvent expliquer ça. Je pense qu'ils.
On le saura,
ouais. Ils étaient pas prêts dans leur jeu, c'était bizarre. Et puis même, on retrouvait pas le niveau chez, par exemple, Ilmaz. Et voilà, c'était bizarre cette équipe de Turquie.
Ouais, Rudy.
Moi, ce qui est un truc qui me frappe dans.
Alors, c'est quoi ?
C'est que elle arrive pas à mettre le rythme qui s'impose aujourd'hui dans le football d'aujourd'hui, c'est-à-dire un rythme, un certain athlétisme, etc.
Niveau.
Parce que je trouve que le football aujourd'hui mise beaucoup sur l'athlétisme, le renouveler des courses, beaucoup de jeux sans ballon, etc. pour déstabiliser les défenses et tout, et beaucoup de défenses en bloc, attaque en bloc, et la Turquie se retrouve souvent dans des configurations, où l'équipe était coupée en deux, les attaquants n'étaient pas alimentés, etc. Donc, quand effectivement, c'est comme quand tu prends l'autoroute, si tu y vas à 30 km/h, tu vas te faire bouffer. Donc il fallait rentrer à fond dans la compétition. Je pense que c'est ce qui leur a manqué. Et puis après, mentalement, ils n'avaient pas les ressources nécessaires. Un match, ça se prépare, quoi.
Physiquement.
Le truc, c'est que le physique prend aussi le pas sur le mental et vice versa. Au bout du deuxième match perdu, les espoirs sont quand même au ras des pâquerettes. Comment retrouver la résilience nécessaire pour pouvoir réussir à relever le niveau? Ils n'ont pas réussi à le faire, donc c'est vraiment une très grande déception. Et c'est pour ça que je dis, en fait, faut faire attention aux équipes qui marchent très très bien pendant les matchs de préparation. C'est pas souvent le cas de l'équipe de France, et en général, après, elle fait plutôt des bonnes compétitions. Peut-être qu'il y a que l'Italie qui nous fait mentir là-dessus.
Mais c'est là qu'on voit l'importance du premier match de la compétition, parce que.
Oui, Frédéric.
Avec cette défaite, moi j'ai l'impression que ça a mis un coup de massue sur la tête des Turcs.
Ça dépend pour quelle nation, mais pour la Turquie, j'ai l'impression que ça leur a mis un frein tout de suite.
Ça les a abattus.
Et derrière, Yilmaz avait fait des déclarations où il expliquait qu'il avait été très touché.
C'est après, c'est le niveau des joueurs.
Oui.
Quand l'autre il centre derrière. L'autre, mais tu sens même pas qu'il jette, il coupe même pas. Il met contre son camp, il l'accompagne. Après, il y a le talent. Et après, quand.
Comment tu sais, Rudy
hein Rudy, c'est Rudy, Rudy avec
quand
nous.
Rudy, quand Rudy, il parle de. Tac. Après, c'est un problème de coach. T'as un groupe de joueurs, t'as un groupe de qualité.
La préparation des matchs.
Après, je te parle en qualité. Tu prends un mec comme Tuchel, c'est facile de jouer en bloc et de pas faire de jeu et attendre. J'ai plus de respect pour Guardiola.
Je te parle du football.
Aujourd'hui, l'Italie, pour moi, il ressort un truc que de toutes les équipes, on voit du vrai football.
Je suis d'accord avec toi.
Juste pour te répondre, Boula, c'est pas du tout le monde derrière.
Alors, vas-y.
Quand tu regardes la position générale, c'est équilibré. 60, 40%, etc. C'est qu'en fait, il y a un athlétisme. Ils arrivent à redoubler des courses et se trouver dans des circuits courts, en fait. C'est ça qui donne l'impression.
C'est peut-être pas une possession. Après, ils ont peut-être pas les joueurs nécessaires. Pour jouer comme ça aussi.
Il faut une condition physique de ouf, attention, pour jouer comme ça. Regarde la Hongrie, ils ont pu le faire.
La France, quand ils ont la possession du ballon, souvent ils ont des matchs difficiles. Quand ils ont la possession du ballon à l'adversaire, là, c'est là où ils sont les plus efficaces. Après ça, c'est chacun comment il adopte
son système.
On va revenir au Turc.
Quand il parle de la France, il est malade déjà.
On va revenir parce qu'on a deux matchs en cours.
On va revenir au Turc.
Oui, rapidement, avant la fin de cette émission.
Les défenseurs ne couvrent pas, c'est un problème de coach. À ce niveau-là, je pense que le coach a besoin de dire aux défenseurs la couverture. Ça prend son de formation, Benjamin, je te parle pas du coup,
je te parle du défenseur central, tu vois pas qu'il est limité le mec.
Quand tu mets un mec comme ça, tu vas pas, faut pas te demander pourquoi tu perds.
Demiral.
Hein?
Limité. Il joue à la Juve.
Juste pour revenir, ce que disait Boula, il n'y a pas de football unique. Ça veut dire que c'est pas l'école Guardiola versus l'école Tourelle, parce qu'on a vu qu'au final, c'est Tourelle qui a gagné et c'est City qui a donné la leçon au Manchester, leçon au Manchester City de Guardiola. Je pense que tout le monde excelle dans son football. Ça veut dire, il y a un football de possession. Si tu joues comme l'Espagne et qu'à la fin, tu n'arrives pas à tirer, c'est un football qui est finalement stérile.
Le football, il y a
si
un public.
Tu as un football,
je suis d'accord avec toi.
Et tu te projettes vite vers l'avant et que tu arrives à marquer parce qu'au final, il faut battre l'adversaire.
Pour aller dans le sens de Frédéric, c'est que aujourd'hui, il y a aussi une fraîcheur actuellement dans le foot. C'est-à-dire, il y a quand même une inclinaison dans le foot. C'est moins le foot de possession qui brille aujourd'hui. C'est plus un jeu hybride entre attaque, défense, un foot que par exemple le Real a joué, que Chelsea joue, que l'Italie joue, voire même que l'équipe de France a joué en 2018.
Ouais, que Conte joue aussi avec l'Inter.
Ouais. Ça, c'est
qui met un mec qui est un attaquant puissant, tout dans l'explosivité, tout ça. Mais quand je vois un joueur,
ils ont un joueur devant la défense qui est vraiment un destructeur en fait d'attaque.
Mais quand je vois un joueur comme De Bruyne,
par exemple,
il pue le football.
Mais regarde, quand tu regardes City n'a plus de destructeur au milieu de terrain. Tu vois, ils ont mis de côté les Fabinho, etc. Ils l'ont payé à la finale de la Ligue des Champions. C'est un football, je dirais pas qu'il est has-been, mais quand tu vois ce que demande le football aujourd'hui, besoin de plus d'athlétisme, de course, de déstabilisation des défenses.
Allez, la dernière rubrique de cette émission.
Time Sport. Le sujet des sociaux.
Frédéric, c'est Verstappen qui coiffe Hamilton dans un final de folie et remporte ce Grand Prix de France.
Verstappen qui a fait un arrêt que peut-être personne n'attendait, mais c'était finalement stratégique, qui coiffe Hamilton au poteau à l'avant-dernier tour et qui se retrouve à 21 points, avec 21 points d'avance sur son concurrent. Moi, je pense qu'on n'a jamais eu, enfin sur ces dernières années, autant de suspense en Formule 1. Et Verstappen, il s'accroche. Il commence à gagner pas mal de grands prix.
Ouais.
Il a une petite avance. Et je pense que même mentalement, Hamilton commence à sentir le danger arriver. Il sent que pour gagner ce 8e titre
forme
et battre le record de Schumacher, va falloir aller chercher le jeune Verstappen.
Boya, un grand merci d'avoir été avec nous. On peut vous retrouver justement sur les réseaux sociaux avec vos dires et votre supporting made in Squadra Azzurra, c'est ça?
Ouais. Déjà, merci de m'avoir invité. Franchement, c'est.
Mais merci.
Malade, j'ai kiffé de fou.
Ouais.
Même nous, on t'a kiffé.
Il faut venir avec le maillot de la Squadra Azzurra.
Vas-y, j'ai pas eu le temps. Les gars, je reviendrai après la finale de l'Euro qu'on aura gagné.
Ne
vous inquiétez pas. Donc, vous pouvez me retrouver sur Instagram, Boya. BOYYA-DUBAOF.
Lim,
Fratelli,
la main sur le cœur.
T'inquiète, on va la gagner cette coupe, je vous le dis.
Ah ben voilà,
il a oublié de t'inviter.
Non,
Coupe d'Europe.
Non, je sais, non, mais c'est pareil, en 2006, t'inquiète, on l'a gagné.
Vous allez tomber sur Pogba, sur Kanté, vous allez voir c'est quoi le football.
Un grand merci à vous, l'équipe. Vous restez avec nous, chers auditrices et auditeurs de Beurre FM. Allez, on fait une courte pause avant de revenir avec la deuxième heure et l'autre équipe, qui est le groupe C.
19h, 21h, Time Foot, spécial Euro 2021 avec Bilal Nenman.
Allez, de retour pour la seconde partie de cette émission qui est Time Foot, 19h, 21h. On est en compagnie de Vivien. Comment ça va, Vivien?
Ça va et toi, Bilal?
Ça va très très bien. On est toujours avec Yacine et Boula. C'est rare. Très très rare.
Yacine et Boula ou Boula et Yacine?
Boula
et Boula.
C'est mieux, Yacine et Boula.
Yacine et Boula, qu'est-ce qu'il y a?
C'est comme Tic et Tac, Tom et Jerry.
C'est gentil.
Yacine est avec nous. Dylan est là. Comment ça va, Dylan?
Ça va super bien.
Ah ben, ça fait plaisir de t'avoir avec nous.
Et si je suis là, c'est, je peux dire merci à Yacine.
Ouais.
Parce que c'est lui qui m'a donné ton numéro.
Ouais. Moi, je dirais pas ça. Moi, je dirais merci tout simplement Beurre FM. Ça, c'est sûr. Voilà.
Exactement.
Tout simplement. On va s'attarder. Mais oui, Yacine. Avec ta casquette, les Yankees.
Eh ben, ils ont pas gagné la Ligue des Champions.
Ah ben non, non.
C'est pour vous mettre un peu de.
Allez, dans le cœur.
Ouais, on va parler de ce match, le groupe C, avec les matchs de ce soir, la Finlande-Belgique et aussi le Russie-Danemark, avec peut-être la composition. Allez, on va la donner. de la Finlande face à la Belgique. Alors, on va te donner celle de la Finlande, Vivien. Est-ce que tu peux la balancer à tous les auditrices et les auditeurs de Beurre FM ?
Bien sûr.
Allez, vas-y.
Écoutez bien.
Assez compliqué, à mon avis.
Pas facile à prononcer. Donc, dans le 11 de départ, on aura A. Ardeki, Raitala, Arajouri, Toivo, Oshoniesi, Uronen, Kamara, Sparv, Lod, Pon, Yampolo et Pouki. Et côté belge,
on aura... justement, on peut laisser. On va laisser Djian.
Bien sûr.
Ouais, on va laisser. Ah, vas-y, Djian, quand même.
Et bah, du côté de la Belgique, ce sera un 11 de départ avec Courtois, Denayer, Boyata, Vermaelen, Meunier, De Bruyne.
Ouais, Kevin De Bruyne.
Ouais. Que ça fasse un peu comme toi.
De Bruyne.
Vite,
c'est. Yassine, quand même.
Batshuayi et Hazard.
De Bruyne. Ouais. Comme les Belges.
C'est parce que des fois aussi j'ai l'accent algérien qui.
Ah non, Belge.
Non, tu m'aimes pas.
En Belgique, chez les Flamands.
Tu as l'habitude en plus d'y aller là-bas. Magnifique championnat, Jupiler.
J'adore le championnat belge.
C'est vrai. Alors, je suis de près.
Si on parle de la Belgique.
Alors la Belgique, face. Oui.
Je vais vous réserver peut-être une information que.
Très allez, rapidement.
Je ne sais pas si c'est le seul. Le défenseur de Leicester, Castagne, qui s'est blessé lors du premier match, s'est fait opérer et probablement il sera de retour en finale si la Belgique se qualifie.
Ouais.
Voilà.
La Belgique, c'est bien dans le groupe B, hein, je le rappelle. Hein. Excusez-moi, on a balancé le groupe C, mais non. C'est le groupe B.
Qui t'a donné cette information ?
C'est mon information. Il n'y a personne qui me donne les informations.
Il y a un joueur algérien, Zorgan, qui, a deux doigts de signer à Charleroi.
Super.
1 million d'euros. Ça a été donné par le Shoot Africa il y a 5 jours.
Ah, ben ça, c'est l'info. Oui, tu en avances, quoi.
Il n'y a pas 5 jours. Ça fait déjà assez longtemps.
tu nous fais quoi ?
Nous, on parle de Beurre FM.
Vérité.
Oui, mais je te crois. Mais je te crois, Yacine. Il y a 5 jours, lui, nous la donne comme ça ce soir à l'antenne. Parce que, il peut.
Parce que lui aussi, il a 6 sources.
Oui, il en a pas mal de sources.
Ah oui, c'est Moudjibaya et l'ancien président de la Fédération algérienne qui sont en train de négocier. Et je crois que le tarif, il est d'1 million d'euros.
Ouais, mais après, j'ai des doutes sur Charleroi de pouvoir payer 1 million d'euros pour un joueur.
Je sais pas, Moutibaya, il gère le 50% du championnat belge.
Et si on revenait sur.
Alors, justement, la Finlande-Belgique, avec ses Belges. Oui, Diane, on t'écoute si tu veux. Vas-y, tu peux enchaîner la première concernant ce match de ce soir, 21h. On le rappelle, c'est tous les matchs de ce groupe B, la dernière journée, la troisième. Eh oui, Vivien, Belgique. Il y a la Russie aussi, il y a la Finlande et il y a le Danemark.
Alors la Finlande, on l'attendait pas hein, quand même. Donc c'est un petit peu le petit pousset de 7 euros. Et là, je trouve qu'ils sont en train de faire
avec la Russie.
Exactement, ils sont en train de faire un parcours qui est quand même assez assez extraordinaire, étant donné qu'on ne les attendait pas. Donc moi, je me dis que ce soir, tout est possible pour eux. Donc voilà.
Ouais.
Moi, ce groupe, tu sais, la fameuse composition des groupes, beaucoup se disaient que la Belgique allait se balader. Et moi, je le trouvais globalement assez homogène. Après là.
Déjà qualifié, de victoire, on le rappelle. Hein,
c'est ça, bien sûr. Belges. En très bonne position, mais là, vraiment, ce qui va être intéressant, c'est cette lutte pour la deuxième place. Et la Finlande, ils ont gagné les premiers matchs dans les circonstances très particulières qu'on connaît. Contre la Russie, ils ont vraiment été en difficulté. Et là, ce soir, je m'attends à ce que la Belgique s'impose largement. Donc moi, par exemple, alors je sais que beaucoup d'auditeurs aiment avoir des infos pour les fameux paris. Moi, je pense que les trois autres équipes vont finir à 3 points, que ça va se départager sur la fameuse différence.
En tout cas, ils jouent contre les Belges, c'est une machine.
Oui, c'est une grosse machine. La Belgique,
c'est une des plus grosses équipes du championnat d'Europe. Quand tu regardes, ils vont retrouver Wetzel, ils ont retrouvé De Bruyne qui est un joueur classe mondiale. Classe mondiale. Après, t'as le petit Thorgan Hazard qui
joue pas ce soir. Thorgan Hazard, hein. C'est Eden Hazard.
C'est Eden qui est dans le
monde. J'ai plus confiance à Thorgan qu'à Eden.
Eden ou Aiden?
Justement,
c'est. Non, mais j'ai plus confiance à Thorgan que à Eden Hazard.
Non, mais justement, Boula, je sais pas, tu sais, il y a eu les déclarations d'Eden Hazard, il a dit, Witzel, De Bruyne et moi, on peut faire la différence à tout moment. C'est ce qu'il a dit aujourd'hui dans des médias, donc.
Je pense qu'il aurait dû se taire un petit peu.
Ouais, parce que je pense qu'il peut. Il a raison, Yacine, parce qu'il devrait se la mettre en veilleuse avec la saison. Ça fait 2 ans qu'il est au Real. Et je pense que s'il y a un Belge qui est très moyen en ce moment,
c'est lui. Mais limite, il a pas sa place dans le 11. Donc, maintenant.
Par respect pour l'équipe finlandaise, franchement, moi, je comprends pas ces joueurs qui, à force de déclaration, à la limite, qui n'ont aucun respect vis-à-vis de leurs adversaires. Mais j'ai, de tout mon cœur, même si j'aime bien l'équipe, les Diables Rouges de Belgique, ouais, j'ai quand même, j'ai un petit coup de cœur pour cette équipe finlandaise, quand même, qui nous change un petit peu des favoris, des grands favoris des compétitions. Et je pense qu'il y a moyen de pouvoir y aller grignoter encore ce poids. Exactement. Qui va leur rassurer un petit peu une qualification, ouais, historique pour le peuple finlandais. Franchement, c'est une équipe très sympathique, ouais, quand on la voit jouer. Et je suis pas d'accord avec toi, mon cher Vivien, quand tu disais,
voyez, Yassine, pourquoi,
quand tu disais que ils se sont qualifiés dans des conditions, parce qu'il y a eu l'affaire, enfin le
ils ont gagné dans des conditions particulières.
Ouais, mais
ça n'enlève pas la qualité de la Finlande.
Dans le football, oui, on gagne, ça, dans chaque condition. Il faut gagner. Donc c'est eux, vrai, ils étaient là pour gagner.
Mais quand ils l'ont fait. Non, mais quand ils disent ça, psychologiquement, c'est sûr que c'était pas évident
pour le Danemark.
Pour le Danois, ils voyaient peut-être.
Comme les Danois,
non mais psychologiquement, ils voyaient leur pote presque à la mort. Le mec, ils se disent, ils sont abattus, les mecs.
On va à la guerre, mon cher Boula. Même si on perd un camarade, il faut continuer à se battre. Donc c'est ça l'âme du sport.
Non, mais c'est le côté humain. Tu dis ça, l'âme du sport, d'accord, mais après, t'as le côté humain.
Mais dans la deuxième partie de mon propos, j'ai dit que le groupe il était très homogène et que même si on voyait la Belgique un peu au-dessus, moi je trouve qu'entre les trois autres équipes, justement, c'est assez serré. Que moi-même ce soir, je voyais les trois équipes être à 3 points. C'est pour dire à quel point.
Et puis en revenant sur Vivien, quand il dit ça,
Vivien,
quand il dit ça, faut pas oublier que le Danemark il menait 1-0 contre les Belges à la mi-temps.
Oui.
Et heureusement qu'il y a eu un super De Bruyne pour exploser le match. Au niveau de talent intrinsèque, c'est ça qui fait la différence dans le haut niveau.
Et peut-être que ce soir, le talent de Bruyne ne va pas suffire face à cette sympathique.
Tu parles d'un des prétendants au Ballon d'Or.
Les deux équipes vont pas aborder le match
avec Finlande-Belgique
de la même manière, parce que la Belgique, on sait qu'ils sont déjà qualifiés, donc ils n'ont pas intérêt à jouer un gros match dans le dur et à fatiguer leurs joueurs.
Il va y avoir un turnover.
De l'autre côté, oui, et de l'autre côté, on a cette Finlande qui arrive, qui fait l'exploit et qui est remplie d'orgueil en ce moment parce que tout lui réussit. Donc je pense que pour moi, la Belgique, elle va faire un match qui va juste être le strict minimum. Et c'est pour ça que je
déjà
vois,
qualifié en plus.
Voilà, c'est pour ça que je vois la Finlande marquer ce point.
Aujourd'hui, avec les classements FIFA, les grandes nations ne badinent plus avec les points. Donc ils vont jouer pour gagner. Hein. Parce que les Belges sont premiers du classement FIFA. Et ça donne beaucoup d'avantages dans le football d'aujourd'hui.
Ça va motiver les Finlandais à jouer contre le premier.
Exactement.
Le fait de perdre ce soir ne fera pas que la Belgique va redescendre au classement FIFA. Ils vont garder leur
Ça m'étonnerait. S'ils n'arrivent pas en finale de l'Euro, ils vont perdre beaucoup de points.
Oui, s'ils n'arrivent pas en finale de l'Euro. Mais là, ils sont déjà qualifiés.
Je ne les vois pas arriver, en tout cas.
Je parle pour ce soir, en fait.
Pour moi, c'est eux qui vont gagner le championnat d'Europe.
Ah, c'est pas pour toi, oui. Pas pour moi.
Ils ont vraiment l'effectif qu'il faut. En plus de ça, Witzel, il revient à son top.
Witzel, Boula.
Witzel, ouais.
D'accord.
Tu vois qui gagnait l'Euro, du coup?
Moi, c'est la France. La France, pour moi, c'est la favorite number one.
T'as dit que c'était l'Algérie.
Ah oui, pour gagner la Coupe du Monde, oui. C'était pour l'Euro, là j'aurais signé.
C'est l'Algérie tranquillement. Pour la Coupe d'Afrique des Nations, on verra si on aura aussi une spéciale Time Foot.
Oui,
bien sûr. Non, mais je t'ai dit, tu laisses l'Algérie où elle est.
Pour la Coupe du Monde.
Bah, ok, ça va. On ira, si tu veux, du côté du Qatar en 2022, Inch'Allah, si Dieu le veut. Il n'y a pas de problème. Yacine, maintenant, j'aimerais revenir avec la Finlande. Tu me parles de la Finlande. Est-ce que ne te fait pas penser cette sélection de Kanerva, le sélectionneur finlandais, à cette sélection islandaise en 2016? La comparaison. Il fallait, Vivien. Alors,
ils jouent pas,
les bookmakers anglais la comparent beaucoup à cette sélection.
Pas, ils jouent pas de la même façon. Ouais. Eux, c'est un football très très viking, très basé sur le physique. L'équipe islandaise, autant il y a de l'intensité physique, autant c'est des joueurs très techniques. Ouais. Donc c'est complètement différent. Mais dans la configuration actuelle, c'est l'équipe surprise. Donc c'est automatiquement, on fait le parallèle avec l'équipe islandaise du dernier Euro qui a quand même créé la surprise et qui a même failli peut-être aller jusqu'en demi-finale. Donc vu la prestation des Finlandais lors des deux premiers matchs, je les vois pas trop, on va dire. Peut-être s'ils disqualifient déjà au prochain tour, ça c'est déjà un exploit. Voilà, donc je trouve l'équipe islandaise beaucoup plus supérieure à cette équipe finlandaise.
Ce qui est difficile à envisager, c'est que ce fameux système des troisièmes, du coup, c'est ça qui va être dur de calculer.
Il faut avoir minimum 4 points.
C'est ça.
Avec un bon goal average.
Bah pour les Finlandais, il leur suffit d'un nul. Et c'est vrai que comme la Belgique est déjà qualifiée, imaginons si Hazard, et donc Eden, pas Torgen, si Hazard ce soir est moyen, la Finlande a un coup à jouer. Mmh. Moi je voyais la Belgique s'en sortir peut-être d'un but d'écart.
De toute façon, la Belgique ne compte pas beaucoup sur Eden Hazard pour faire la différence.
Hein. Bah, il est ce soir dans le 11 et j'imagine que c'est le sélectionneur.
C'est normal, il est dans le 11.
Il revient de blessure, il a besoin de temps de jeu. Il n'a pas joué pratiquement toute la saison avec le Real.
Et puis surtout,
il a joué.
Il n'a pas joué au Real.
Il a eu des blessures, mais si.
Moi, je me rappelle.
Oui, mais il joue pas. Quand t'es blessé, dans le haut niveau, quand t'es blessé, oui. Tu joues pas, c'est parce que t'es pas à la hauteur de ce qu'on attend de toi, c'est tout.
Ça, c'est sûr.
Quand t'es blessé, hein.
Non, il n'y a pas quand t'es blessé, Quand t'es blessé, ça veut dire que psychologiquement, t'es pas sérieux, t'as pas l'éducation. Moi, j'ai pas besoin d'avoir la tablette. Avec son gros ventre, j'ai pas besoin d'avoir la tablette de Cristiano Ronaldo.
Ouais, Cristiano.
Le mec qui se permet de critiquer Cristiano Ronaldo, qui est un travailleur dans l'âme.
Je l'ai jamais entendu dire ça. Hein.
Non, il avait même dit pire que ça. Il avait dit.
Merci, heureusement que t'es là.
Ouais. Mais bon, c'est pas. Alors, à ses coéquipiers, il avait même dit qu'il pouvait être au même niveau que Cristiano Ronaldo quand il est arrivé. Allez,
est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un enregistrement dans lequel il dit ça?
Oui, c'est dit ça.
Ah, ça a été confirmé par plusieurs sources dans le vestiaire.
Mais lui, c'est. Lui, faut que tu saches qu'il a un esprit de contradiction, mais je le laisse s'exprimer là-dessus. C'est lui. Bah attends,
il a raison d'amener un autre point de vue du débat.
Bien sûr,
on est quatre.
Un autre point de vue du débat.
Ouais, mais non, faut qu'il voit quelque chose, tu crois que c'est vrai?
Dans le point de vue du débat, faut être dans la réalité.
Quand je te dis ça, il l'a dit. Avec lui le jour, il l'a dit.
Ah, je l'ai vu dans Canard.
Il faut savoir que c'est.
Vas-y. Moi personnellement, c'est un mec qui vaut 100 millions. Pour moi, il m'a rien fait montrer depuis qu'il est au Real. Ouais. Je pense que les points qui manquent à Zidane.
Par contre, merci. Il a vraiment l'esprit de contradiction parce que 3 minutes avant. Tu disais qu'Hazard, il pouvait faire la différence tout seul.
Merci à Sendiane, rapidement avant la pause. On s'écoute, Diane. Messieurs, s'il vous plaît.
Juste pour clore un petit peu sur ce débat, il faut savoir que c'est le propre des joueurs et des sportifs de très haut niveau d'avoir un ego surdimensionné. En même temps, tu peux pas attendre d'un mec qui a ce niveau-là ou qui joue à ce niveau-là de dire oh, en fait, je suis pas très très bon, les gars, je suis pas très très sûr. Donc c'est le propre un petit peu, tous les sportifs de haut niveau, tous les joueurs de très haut niveau ont cet orgueil, cet ego surdimensionné.
Ah non, pas
tous. Il le montre pas tous, mais parce qu'il te l'a pas montré, mais bien sûr que
Zizou.
Si. Il a une arrogance qui ne montre pas sur le terrain.
Zizou, quand il parlait, disait c'est pas moi, c'est le groupe, c'est le collectif.
Oui, mais quand il est sur le terrain, il joue avec une forme d'arrogance. C'est voilà, hein, il le communique différemment.
Une façon de communiquer, mais dans le vestiaire, tout le monde sait que.
Et chez lui, c'est le
boss. Après, faut que tu montres l'exemple sur le terrain. Même si t'as un ego, faut que tu montres l'exemple.
Merci Vivien, ainsi que Yacine.
Kylian Mbappé, il montre que c'est le plus fort à Paris.
Chers auditrices et auditeurs de Beurre FM, on revient rapidement avec de la NBA et ses playoffs.
Time Foot spécial Euro 2021 revient dans un instant. 19h, 21h, Time Foot spécial Euro 2021 avec Bilal Nenman.
On est de retour pour la seconde partie, de cette émission. Toujours en compagnie de Diane, notre consultant, de Boula, de Yacine et de Vivien. Je me retourne vers Vivien pour partir du côté des États-Unis avec la NBA et ses playoffs.
Time Sport, la troisième mi-temps.
Eh oui, les Brooklyn Nets face aux Milwaukee Bucks portés par un immense Antetokounmpo. Vivien.
Eh oui,
il a été grand.
C'est vraiment un séisme parce que c'est la chute du grand favori pour le titre NBA. Les Brooklyn Nets qui avaient une assemblée de stars, plein de joueurs fabuleux, qui étaient censés survoler ces playoffs et qui s'écroulent de façon assez lamentable. Ce qui est encore plus lamentable, c'est qu'il y a un joueur exceptionnel, il s'appelle Kevin Durant, qui met encore 49 points. Et ça suffit pas parce que défensivement c'est pas assez. Au niveau du coaching, son coach a eu l'idée de lui faire jouer quasiment toutes les minutes sur ses derniers matchs. Et puis il y a des stars à côté qui ont pas été au niveau. James Harden pas assez bon. Le banc mal utilisé, donc c'est une pure catastrophe. Une équipe qui devait aller au bout et qui s'effondre en prolongation
et là, justement,
à domicile.
Et comment faire, Vivien? On arrête quoi la saison. Ça se termine.
Là maintenant, ça s'arrête. Donc, pour l'an prochain, ce qu'il faut, il faut qu'ils essayent de trouver.
Et ils vont en tirer profit.
Il faut qu'ils essayent de trouver d'autres joueurs. Et maintenant, en termes de salary cap, ce fameux budget, si on résumait en simplement, les Nets auront très très peu de marge. Donc, il faut qu'ils fassent des bons choix de draft. Il faut qu'ils aillent chercher des gens qui sont un peu sous-cotés. Mais en tout cas, c'est entre ça et l'élimination des Philadelphia Sixers, Philadelphia si on dit en anglais, c'est vraiment les deux favoris de la conférence Est qui se sont effondrés. Et ce que ça nous montre, c'est que finalement, l'assemblage de stars, c'est très très bien, mais là, on voit que dans ces playoffs, ce sont vraiment les collectifs qui sont en finale de conférence.
Irving absent, Harden aussi en dessous. Les stars vont-elles un peu, si je peux me permettre, vont-elles se dissoudre cet été?
Alors, dans ce cas précis des Nets, je pense qu'ils vont rester. Ça va être un mariage un peu forcé. Pourquoi forcé? C'est parce que ils vont se dire que malgré tout, ce sera peut-être leur meilleure chance pour essayer de retenter l'an prochain. Donc ça va être un peu un mariage comme ça de raison, mais concrètement, je trouve que selon le champion en titre, si par exemple Milwaukee va au bout, ça pourrait vraiment rabattre les cartes.
Ouais, la finale Est, là aussi, Vivien, on peut se permettre de le dire, les Hawks, la bonne année peut-être pour les Bucks de Giannis.
Ouais. Ah, c'est une équipe beaucoup.
Pas beaucoup mettaient une pièce. Voilà, c'est ça.
Exactement.
On en parlait en début de saison.
Mais finalement, on a MVP qui met 30 points par match et surtout l'entourage autour de lui a amené beaucoup, beaucoup de choses, notamment pour sortir les Nets. Donc, c'est vraiment une équipe qui est taillée pour le titre et ils ont tout pour en tout cas.
Peut-être une réaction, non, Yacine, ou Boula, ou peut-être Diane. Alors,
que Vivien, il devrait, il devrait être embauché pour Canal pour parler.
Ouais,
du
on s'en fout de Canal. Là, on est sur Beurre FM, Boula. On est sur Beurre FM et il est très très bien dans la rédaction de Beurre FM et dans cette émission de Time Sport.
On est très bien.
Voilà. On est bien plus connaisseurs que nous.
Je voulais te répondre.
Mais par contre, Boula va négocier. Non, Yacine va négocier les contrats pour moi.
T'as dit, t'as fait un lapsus. T'as dit Boula, après t'as dit Yacine.
J'ai dit Yacine.
Je sais pas si t'as marqué, Yacine.
S'il avait fini la phrase, je lui ai envoyé sa lettre de démission tout de suite. J'aurais résilié son contrat.
J'ai fait un petit lapsus, oui.
Non, on est tranquille avec lui. Ici,
mais quand même, vous êtes de la chance quand même avec Nabil. Hein.
Ouais.
Vous voulez en formation et après, vous allez ils vont aller se négocier ailleurs.
Non, mais on est très bien ici. On a Yacine.
Quelle formation? Mais c'est un expert en la matière. C'est lui qui forme les gens.
J'ai vu que tu l'as pris en vidéo et tu vas la mettre sur ton site. T'as raison.
Non, c'est partagé sur les réseaux sociaux. Ben, on a personne avec Abdel, Farid et aussi
pour en revenir à la petite équipe de Tom Sport. Oui, c'est vrai que cette saison de NBA, elle a été. On a l'impression un peu que c'est parti dans tous les sens. On a des équipes qui se sont effondrées, donc il y a aussi le Covid qui joue là-dessus. Et tout à l'heure, on parlait d'égo de stars. Et ben, s'il y a bien un sport où certains égos peuvent pourrir une équipe, ben, c'est bien au basket. Je pense notamment à
Harden. Carrément.
Et moi, je trouve que voilà, certaines fois, comme on disait, une compilation de mecs.
Mais ma chère Jen,
est-ce que tu peux me laisser finir?
Ouais,
Je faisais juste un transfert entre deux choses qui ont été dites et pour faire le parallèle entre un sport où le foot, en fait, cet égo de star qu'on va retrouver quand les équipes nationales se retrouvent, ça va durer que le temps d'un championnat d'Europe ou autre, alors qu'en NBA, cet égo de star, on le retrouve sur toute la saison. Et ça peut pourrir une équipe.
On le trouve que dans le football, il y a beaucoup d'argent
Non, c'est quelque chose...
Dans les sports, il y a beaucoup d'argent ou dans d'autres sports?
Tu peux le retrouver dans d'autres sports, bien entendu, mais en NBA, c'est beaucoup plus flagrant que dans d'autres
sports. Parce que McGregor, il ne se gêne pas aussi.
Mais McGregor, il est tout seul. Il n'a pas une équipe derrière lui. Alors, certes, il a un staff qui va le préparer, mais McGregor, quand il combat et qu'il est dans la cage, il est tout seul.
Ouais.
Ça veut dire que même s'il a un ego surdimensionné et qu'il a envie de rentrer en faisant ouf dans la cage, il va pourrir personne dans son équipe. C'est pas la même chose.
C'est un sport individuel.
Là, on parle d'un sport individuel, même si la préparation est collective, et d'un sport collectif où le collectif est présent toute l'année.
Et donc, à t'écouter, ça veut dire que les joueurs qui ne sont pas au niveau des grandes stars sont obligés de subir les égos des autres tout le temps, quoi.
C'est pas ce que je suis en train de dire.
Non, mais je te pose la question.
Ouais. Je suis juste en train de dire que certains égos, quand l'équipe est mal tenue ou quand on laisse trop de place, parce que les joueurs, que ce soit au foot, au basket ou n'importe où, ils prennent la place qu'on leur laisse. Et quand ces joueurs-là prennent la place qu'on leur laisse, certaines fois, ça peut devenir un petit peu difficile à gérer.
C'est pour ça. Excusons des coachs des coachs qui les gèrent psychologiquement par rapport à ces...
Alors, il y a des préparateurs physiques, il y a des préparateurs mentaux, il y a des préparateurs... Mais après, tout ce travail qui va être fait derrière, ça va être le coach et l'adjoint du coach. C'est eux qui vont avoir ces discussions-là avec les joueurs, avec...
Et pour une fois, j'entends le mot adjoint du coach. Parce que souvent, les coachs adjoints, ce sont eux qui sont partout. Oui,
mais là, on
ne
parle pas du coach adjoint, là. On parle d'égo, mais dans le football, on a à un moment coach personnalisé. Il y a des joueurs qui ont des coachs personnalisés.
Alors en fait, ils vont avoir des coachs personnalisés sur les périodes où ils vont être en trêve hivernale ou en trêve estivale, et c'est à ce moment-là que les coachs perso vont rentrer en jeu pour.
Et ça, c'est le boulot d'un agent. Au niveau gestion, quand un joueur il a un ego, à un moment donné, de lui faire travailler son ego, de pas.
Alors quand le joueur il a un coach perso qui va prendre pendant une trêve, c'est un coach que lui il paye, donc le coach il va aller.
Oui, mais faut que tu saches que les coachs dans le football, ils sont pas là pour la, ils en ont rien à foutre de la psychologie. Eux, ils ont besoin d'un groupe, ils ont besoin d'un joueur prêt. Après, dans la gestion.
Mais en fait, il faut comprendre qu'il y a un collectif. Un coach, il n'agit pas tout seul. Il y a un staff.
Mais c'est pour ça que je te dis que dans le côté
individuel du staff.
C'est pour ça que dans le côté individuel, l'agent. Il joue un rôle du problème. Parce que quand tu as des joueurs qui ont un ego, des fois, si, admettons, tu n'arrives pas à le débloquer de son ego, c'est sûr que ça devient dangereux pour lui et pour le collectif.
Alors après, j'entends parler de coach, j'entends parler d'agent.
Non, mais c'est bien,
l'agent,
une bonne que tu as par rapport à l'ego, je suis d'accord avec toi.
L'agent, c'est quelqu'un qui travaille pour le joueur. Il suffit que l'agent du joueur soit son frangin, et je ne suis pas certaine qu'il soit capable d'avoir le recul
nécessaire. C'est souvent le cas aujourd'hui.
Je suis pas certaine qu'il ait le recul nécessaire.
Non, je pense que c'est pas un métier, mais c'est. Je pense que quand t'es agent,
il y a un diplôme d'agent.
Non. Écoute-moi, le diplôme, je le connais. Je le connais par cœur. C'est pour les intellectuels.
Là, on sort les diplômes.
Allez.
Non, on aimerait.
Non, mais attends.
Vas-y, Boula. Mais rapide.
Je reviens sur le diplôme d'agent. Il faut que tu saches que la fédération française de football, c'est le seul pays où qu'on met en avant l'agent. Par contre, dans les autres pays, tu peux être agent. Tout le monde peut être agent.
Oui, tout le monde peut être agent.
Ouais, par contre, il n'y a qu'en France, tu vois ça. Ça veut dire que pour l'arbitrage, c'est comme ça, c'est que des intellectuels. Et pour le truc, c'est des intellectuels. Par contre, ceux qui ont le gros business, c'est pas les agents qui ont été formés en France. C'est les mecs de quartier de banlieue. Et qui ont des prête-noms comme agents.
Merci. Ouais, peut-être un mot encore à dire.
Non, mais cette question des égos était très intéressante.
Les égos. On parlait de NBA, hein.
Même on va dire si on fait globalement, les sportifs américains ont tous énormément d'ego, mais la plupart ils arrivent quand même à tirer le meilleur. On a eu des grands champions, des Jordan, des Kobe, même un LeBron a eu des égos et a su.
Surtout que
quand tu dis a su, je suis d'accord avec toi. Tu prends un mec comme Agassi.
Oui.
La chance qu'il a eu Agassi dans sa carrière, c'est qui?
C'est un sport individuel.
Agassi, la chance qu'il a eu, c'est qui? C'est sa femme.
Oui, Steffi Graf.
Elle l'a rendu avec une maturité de bonhomme, de monsieur.
Par contre, il a perdu ses cheveux,
il est bien entouré.
Tu peux placer.
Quand on parle des joueurs de NBA, il faut savoir que ça brasse énormément d'argent. Souvent, les joueurs ont des contrats individuels avec des grandes firmes.
Ça, c'est vrai.
Et les grandes firmes n'ont pas besoin de joueurs qui n'ont pas d'ego. Si tu n'as pas d'ego, il faut que tu t'identifies à la firme. Coca-Cola, demain, c'est l'exemple. Elle signe un contrat avec LeBron James et elle ne va pas lui demander d'être le plus gentil du monde. C'est très important. Donc, on va rentrer dans un autre débat.
Donc, il faut de la personnalité.
Oui, on le dit du côté des auditeurs, des auditrices. C'est justement Marco qui dit l'ego est une arme en NBA. Voilà quoi.
Exactement.
Ouais. Il a tout répondu.
Oui, que ça soit après.
On prend l'exemple de
Cristiano Ronaldo. Tout dépend qu'il y a l'ego.
Quand on prend le cas de Cristiano Ronaldo, quand il était les années où il était au Real de Madrid.
Si c'est l'ego et de la jalousie, ça devient très dangereux.
On sent que le club, dans des matchs très décisifs, où le club il est en train de vaciller, et on sent l'orgueil, l'ego du joueur, et il tire tout le monde vers le haut parce qu'ils veulent tous lui ressembler. Et ils n'ont pas intérêt à le décevoir.
Bien sûr.
Et c'est très important. Et c'est le cas de Zidane aussi.
Et tu fais bien
d'en
parler.
S'il ne le montre pas.
Ouais, tu fais bien d'en parler. On rappelle les scores des matchs de ce groupe C d'aujourd'hui. C'est vrai, l'Ukraine, l'Autriche. Et oui, c'est l'Autriche qui a remporté son match sur cette troisième journée de ce groupe C. La Macédoine qui a perdu face aux Orangers, le Pays-Bas. Et oui, 3-0. On va essayer de... sur la dernière et large partie, c'est les infos concernant l'équipe de France.
Time Sport.
Eh oui, l'équipe de France avec Karim Benzema, ça te fait sourire, tu me regardes comme ça, mais il n'y a pas de problème. Voilà.
Toi, j'ai l'impression que tu as un problème avec Karim Benzema.
Karim Benzema, j'aime beaucoup Karim Benzema. Oui.
Parce que lui, il est Lyon, toi, tu es Marseillais. Donc
ah, mais non, mais moi, j'ai aussi grandi à Lyon. C'est sympa. C'est sympa. Il a fait des beaux petits.
En plus, lui, il aime bien Bilal. Il aime bien, il dit qu'il a une très belle voix à la radio. Ben oui, c'est la vérité.
Si je peux ouvrir le bal quand même sur Benzema, parce que
je. Mais quand même, laisse-moi faire l'introduction. Jilan, quand même, Benzema peine à reproduire la forme qu'il a au fameux Real Madrid avec l'équipe de France.
C'est vrai.
Tout le monde en parle. Vas-y, concernant Karim Benzema et l'équipe de France.
C'était ça ton intro ?
Oui, bien sûr. C'était ça. Parce que
elle était satisfaite.
C'est Karim. Ouais, elle n'était pas satisfaite. Ça fait rien.
Parce allez, vas-y. Oui, non, parce que en fait. J'ai vu un petit peu toute la folie qu'il y avait tout ce week-end sur les réseaux sociaux, sur il faut remplacer, mettre Giroud, il faut. Mais je crois qu'on est un petit peu, on regarde un petit peu Karim Benzema depuis la lune et on attend à ce qu'il fasse des choses extraordinaires. Je rappelle quand même que depuis qu'il est à l'Euro, si on fait le bilan un petit peu de ce qu'il a fait, il a perdu très peu de ballons. Voilà. Il n'a pas eu énormément d'occases, donc ça veut dire qu'à un moment donné, s'il n'a pas d'occases, c'est que la créativité.
C'est le joueur qui a frappé le plus devant le but, hein. Sans marquer. C'est des statistiques.
C'est des statistiques. Après, c'est vrai que si on prend ces trois derniers euros. Il a
zéro ou euro ?
Zéro, les euros.
Parce que les euros, tu mets
beaucoup d'argent. Les trois derniers euros, excusez-moi, parce que je en fait, je parle vite parce que j'ai peur que tu me coupes à chaque fois.
La peur,
c'est ça. Vous avez vu ?
Vas-y, je crois que
ça a terminé.
S'il vous plaît. Je fais un passement de jambe et après, je t'envoie la balle.
Écoute, t'as deux loups qui sont prêts à te sauter dessus.
Arrête, toi aussi, quand même.
Au sens figuré, je précise.
Alors, c'est vrai que si on fait le bilan sur les trois derniers euros sur lesquels il a joué, il a tiré 30 fois et il a marqué 0 but. Mais ça fait quand même un bout de temps qu'on ne l'a pas vu en équipe de France. Donc il est un peu en train de revenir. Il a une pression qui est quand même extraordinaire sur ses épaules entre l'équipe qui se permet de faire des titres qui sont quand même à chaque fois assez farfelus. Mais moi je trouve quand même, et c'est ce qu'il faut retenir, derrière tout ça, c'est que Deschamps, il a confiance en lui. Il le garde sur le terrain malgré le.
Tout il le déclare d'ailleurs. Mais est-ce que toi, tu as confiance en lui ?
Moi j'ai confiance en lui. C'est. En fait, il faut se mettre aussi un petit peu dans sa peau plutôt que de le regarder. Mettez-vous dans ses chaussures et vous allez vous rendre compte que le mec, il arrive avec une pression extraordinaire.
Ouais.
Il y a toute la France
qui
l'attendait.
Il l'a cherché, il l'a voulu. Hein.
Il l'a cherché, il s'est traîné.
Mais il y va, il prend le pari.
Il y va, mais maintenant, il faut aussi ce trinôme qu'on a devant, il faut aussi qu'il arrive à trouver ses marques. Il faut
oui, peut-être le système de jeu mis en place par Didier Deschamps. Il est assez critiqué.
En tout cas, il y a un système médiatique autour de Karim.
Oui, mais il est fort, Karim.
Non, mais je te parle pas de ses qualités, je te parle pas du
tout. Non, mais mentalement, je te parle mentalement.
Il y a un système médiatique qui est fait autour de Karim, qui est contre Karim. Au niveau média.
Nous, on est un média, mais on n'est pas contre Karim.
Heureusement que Mikou les a remis à leur place hier.
Oui.
Par rapport.
C'est nos confrères de l'équipe, c'est ça ?
Non, mais heureusement que Mikou les a remis tous à leur place.
Ça, c'est toi qui le penses.
Que des gens comme. Ouais. Tu prends des gens comme Didier Roustan ou tout. Du football. Il y a un truc que.
Même Didier Roustan, il vient du.
Il a couvert.
Mais oui.
Je reste du monde.
Mais oui.
On
va
dire que c'est pas une référence. Du tout ça. Ça, je vois. Bon, mais ça, le problème, c'est que.
En attendant, c'est pas ces mecs-là qui font les compositions de l'équipe et c'est pas ces mecs-là qui font jouer Benzema.
Roustan, ça n'a pas été le plus crédible.
Bilal, concernant Benzema.
Karim Benzema.
Mais Benzema, c'est.
Alors, on en parle de Karim Benzema.
Mais je comprends. Bilal, c'est pas lui qui va te dire qu'est-ce que tu dois faire. Maintenant, quand on parle de Benzema.
Non, mais
Benzema, il y a un truc qu'il faut que tu saches que quand je parle de Benzema, je sais qu'il y a une campagne de presse. Même au niveau politique, c'est un mec, il est au milieu de la scène de l'équipe de France.
Ouais.
Et il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que tout le monde dit il a pas marqué. On le prend en otage parce qu'il a pas marqué. Par contre, en niveau qualité de jeu, parce qu'il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que Deschamps, il a joué très défensif. Hein. Tu prends un mec comme Griezmann. Griezmann, il a défendu pendant une heure et demie derrière.
Oui,
alors la qualité de jeu de la France, elle est pas très haut par rapport à la qualité de Zidane quand il met son équipe en place. Et là, un mec que tu peux pas.
Tu veux que l'équipe de France joue comme le Real de Madrid.
Alors il y en a qui a mouru.
On parle de qualité de jeu par rapport au talent. On parle.
Alors
alors, il faut qu'on arrête un peu.
Non, on va voir Yacine. Vas-y Yacine.
Juste une chose. Rappelle. Karim Benzema revenant en équipe de France. Il s'attendait à quoi? Il s'attendait que les gens, là, ils vont l'accueillir avec les U. Avec les Macron.
Non. Quoi?
Il savait.
Yannis, il aurait voulu.
Quand il était déjà avant de partir, avant d'être exclu ou écarté de l'équipe de France, déjà au Stade de France, les supporters le huaient. Il n'a jamais été en odeur de Saint-Étienne avec cette équipe de France. Et pendant cinq ans, il n'arrêtait pas de dire le maillot, je suis attaché, le maillot. Et quand il est revenu, il a dit clairement, les images, elles existent. Merci Didier de m'avoir fait revenir. Donc aujourd'hui, qu'il assume.
Quand tu dis, on revient à ce que je dis. T'as vu quand il dit les supporters. Alors, les supporters, non mais Boula, je te coupe, c'est obligé. Quand il dit le supporter le huait, faut pas oublier que politiquement, les médias.
On fait. Merci Boula. On fait une courte pause, on va revenir avec Yacine. On fait une courte pause, la dernière de cette émission, et de suite.
Time Foot spécial Euro 2021 revient dans un instant. 19h, 21h, Time Foot spécial Euro 2021 avec Bilal Nenman.
Et de retour sur l'antenne de Beurre FM, toujours en live jusqu'à 21h, la dernière partie de cette émission avec Edjian, notre consultante, Boula, Vivien et Yacine. On revient à Yacine justement, Boula. Il a son droit de réponse, Yacine. Alors.
C'est même pas un droit de réponse. Tout à l'heure, on a fait le parallèle avec Zidane, en revenant en 2006. Il n'a jamais demandé de revenir en équipe de France. C'est toute la République, y compris le président Chirac, qui se sont mis à le supplier pour revenir. En revenant, il a montré que c'était le vrai patron.
Ouais.
Il a mené cette équipe de France jusqu'en finale de Coupe du Monde. C'est ça la personnalité. Si aujourd'hui, ce que je reproche à Benzema, je reproche sa communication. Ouais. Il doit dire c'est moi le boss, c'est moi le patron, et tout le monde doit jouer pour moi.
Ah oui, carrément.
Tant qu'il a un discours où il écoute les uns les autres, pour moi, il n'ira nulle part pour faire taire les gens. Pour faire taire les gens, il faut qu'il hausse le ton et dire c'est moi le boss. Tout le monde doit jouer pour Karim Benzema.
Yacine,
tu dis ça, tu dis ça. Tu vas comparer. Il faut pas que tu compares Zidane et Benzema. Il a subi une bêtise où il y a eu autour de lui, il y a eu du négatif. Malheureusement, il a été condamné où il n'aurait jamais dû être condamné par rapport à son sport. Tu peux pas te permettre.
Il n'a jamais été condamné par la justice.
Non, mais je te parle. Il a été condamné au niveau de
la fédération. Sport,
au niveau du foot.
Ouais.
Il a été très condamné au niveau du foot. Ouais. Pendant 5 ans, on lui a dit tu ne joues plus en équipe de France.
Ouais.
Et c'est quand même dur. Parce que le problème qu'il a eu avec Valbuena, quelque part, ça l'a. Mais ça a arrangé les médias.
Il n'a jamais eu de problème avec Valbuena, Benzema.
Si.
Il n'a jamais eu de problème avec Valbuena. Il est où Est-ce que Benzema, il a fait quelque chose pour Valbuena?
Diane, on s'écoute. Allez, Diane.
Déjà pour en revenir avec l'histoire de Valbuena, tant que
on va pas parler
tant
de ça.
Mais la justice n'a pas statué, je vois pas pourquoi la fédé.
On met de côté cela.
Enfin bref,
après l'Euro 2020.
Je vais revenir un petit peu sur ce
j'aime
retour.
Bien, enfin bref.
Ouais.
Où vous comparez Zidane, l'histoire de Zidane et l'histoire de Benzema, elles sont pas comparables.
Voilà, merci.
L'histoire de Benzema, c'est quelqu'un qui a été exclu parce que pour des raisons de
politique.
Vous mettrez ce que vous
j'aime
voulez.
Bien, j'aime bien parce que elle sait que c'est politique. J'aime bien, elle sait que c'est politique.
Laisse-la terminer. Je t'en prie.
Mais c'est pas
vas-y, Diane.
Dis ce que tu ressens.
Oui, mais vas-y. Justement, elle essaye. Allez, vas-y, Diane.
Quand tu vois un mec comme Valls.
Laisse-la terminer. Laisse-la terminer, Boula, quand même.
Vas-y,
Diane, on t'écoute. Les auditeurs aussi.
Donc, on ne peut pas comparer ces deux histoires. Il a été exclu. Après, vous mettrez les raisons que vous voulez en fonction de vos affinités ou de votre ressenti. Et derrière tout ça, il a dû faire un travail sur lui-même pendant 5 ans où on lui a dit, en gros, c'est ferme-la, fais profil bas, montre que tu es capable de revenir en équipe de France, etc., etc. Une fois que la justice aura statué et que tu seras blanchi, on va te reprendre. En gros, c'est un peu ce qu'on lui a dit. Là, il revient. Il revient, c'est quand même un attaquant. Ce qu'on attend de lui, c'est qu'il marque
des buts. Excuse-moi.
Quand il marque pas de buts,
on n'a jamais dit que tu allais revenir. Deschamps, il a dit Benzema, c'est fini en équipe de France.
Je parle de ses proches.
Mais le problème, c'est qu'après, je la comprends dans sa communication quand elle s'exprime. Elle dit pas les choses comme il doit être dit.
Oh,
en plus, le pire, c'est que elle est algérienne.
Si.
On est qu'un seul continent.
Oui, mais on est un seul continent.
On est tous citoyens du monde.
Il a subi quelque part. Elle veut pas rentrer dans les détails.
Non,
je la comprends. T'as vu, crie pas comme ça. Le problème, c'est que moi, il y a un truc qu'il faut savoir.
Oui.
Pour défendre quelqu'un, faut défendre ce qui est défendable. Tu prends un mec comme Valls.
Là, on parle de football.
Non, mais
il est en équipe de France.
Il est revenu.
J'aimerais bien.
Il a pas arrangé les choses. C'est tout.
Elle termine son propos. Allez, dis à notre consultant, termine son propos.
Vas-y, avant la fin de l'émission. Il arrive quand même avec une certaine pression. C'est un attaquant. Il doit marquer des buts. Donc, quand il ne marque pas des buts, forcément, on va revenir sur son statut, on va revenir un petit peu sur sa légitimité au sein de cette équipe de France, qui est tout à fait normal. Après, je ne pense pas qu'il puisse, à un moment donné, dire comme tu viens de le faire, taper du poing sur la table en disant « c'est moi le patron ».
Merci Yacine.
Il y aura qu'un seul Yazid, il n'y en aura pas deux déjà.
Voilà.
Yazid,
ils ont fait un Zidane, ils ne veulent pas faire un deuxième.
Petit était pas loin. Non, je rigole. Non, mais après, sur Benzema, il est moyen. En fait, là où je suis d'accord avec Yacine, c'est que justement, dans cette période où il est plutôt moyen, le fait qu'on n'entend pas, il parle pas. Et peut-être qu'il faudrait qu'il aille à la presse. À la limite, même ce qu'a fait Giroud, beaucoup ont critiqué tout ça, mais d'un côté, j'ai compris quand il a dit les ballons n'arrivent pas. Peut-être que Benzema, faudrait qu'il tape encore plus fort du poing, comme parce que sinon.
Le karting a mis un boulon dans les roues de la Formule 1.
Oui, mais.
Depuis que Giroud a sorti sa phrase, on sent une tension qui s'est multipliée par 10.
Tu peux pas faire ça. Tu peux pas parce que tu as été écarté de cette équipe de France justement à cause de ça. Parce que tu as trop parlé, parce que tu as dit des choses.
Ouais, mais c'était une affaire hors sportive.
Mais là, je parle football. Un petit peu dans ses chaussures. À un moment donné, il sait qu'il a été écarté à cause de ça et je suis persuadé.
Mais il peut dire que donnez-moi les ballons pour marquer.
Je suis persuadé que tout ça, ils sont en train de lui dire mec, fais profit bas. Et après, s'il a des choses à dire, donnez-moi des ballons ou autre, il le fera pas devant la presse. C'est justement, faut pas.
Est-ce qu'il le fait en interne? Ça, on ne sait pas, pas non plus.
Mais en même temps, il n'a pas à passer au-dessus de ce que le staff met en place et du game plan qui est mis en place.
Mais c'est pas passer au-dessus.
Pour moi, le fait que Deschamps les fait sortir, il peut dire ce qu'il veut. Deschamps, il peut raconter ce qu'il veut. Dire que Benzema a ma confiance. Ouais. Le fait de l'avoir sorti deux fois sur les deux matchs. C'est qu'il n'a pas confiance en lui, c'est qu'il y a des choses qui se passent en interne.
En
tout cas, je rejoins Yacine, quand t'as un joueur comme Benzema qui est en équipe de France et tu le sors deux fois dans deux matchs, moi je dirais que Benzema, contre la Hongrie, moi je le trouvais au-dessus de tous les attaquants. Voilà.
Même Mbappé. La manière dont il joue quand même depuis 7 euros, il joue quand même extrêmement bien, Benzema. Moi, faut remettre les choses dans leur contexte.
Et comment il accepte de sortir? Moi, j'aurais jamais accepté de sortir.
Où il est intelligent,
il sort, il dit rien.
Il sort, il dit rien.
Au niveau de sa com, pour moi, il est très fort. Il parle pas, il s'exprime pas, il dit rien. Il fait parler ses jambes, il fait parler le terrain. Maintenant, s'il l'a sorti, c'est pas grave.
Pour le moment, il a le respect
du coach. Il a le respect du coach.
Ça pas ramené l'euro, tout ça. Détrompe-toi.
Oui. Parce que là, vous regardez, ils sont quelque part qualifiés.
Ouais.
Ils sont qualifiés. Quoi qu'il arrive.
Oui,
le seul truc que je demande. C'est les matchs qui vont arriver.
Oui.
Et on fera un bilan. Parce que c'est facile de parler aujourd'hui. Parce que tout le monde parle. C'est facile de parler, il n'a pas mis de but.
Et il est beaucoup critiqué, comme disait Diane.
Aujourd'hui, s'il est silencieux. Et tu veux, je te dis, quand je vois son silence, je vois Zidane.
Ah.
Aïe, ça fait peur. Ah oui, ah ben les comparaisons, oui, bah bon. Ouais, mais quand même.
Deux gros joueurs.
Bah oui,
Non, mais c'est même pas ça.
Comme il m'a dit Daniel Renault.
Alors, notre confrère de l'AMC.
Ici, c'est Bilal Nesman.
Ouais, mais bien sûr, Daniel, ça va, c'est ta vie. Mais oui, ça fait rien.
C'est Daniel Renault, Bilal
Nesman. On le connaît, oui, on le connaît. Il n'y a aucun souci.
Daniel Renault, comme je lui dis, regarde, tu prends un mec comme Arès. Et regarde, en France, ils ne l'ont pas gardé. C'est ce qu'il m'a dit, mais heureusement. Sinon, ce n'est pas Marès.
Ouais.
Mais on n'a pas, ça il dit qu'on n'a pas les entraîneurs. Heureusement que.
Benzema, il a réussi en France et en Espagne.
Ouais. Avant la fin de cette émission.
En France et en Espagne.
Moi, je suis un peu. Je ne suis pas d'accord avec cette comparaison. Comparer Zidane et vouloir comparer Benzema.
Ah, Benzema.
Yazid, on a dit.
Si vous parlez. Si vous parlez à Zidane, il va vous dire que lui, il a toujours voulu être lui-même et Benzema, il ne cherche pas à être un Zidane, il cherche à être Benzema et à marquer l'histoire au nom de Benzema. Pas au nom de Zidane être comparé à un sportif. Donc moi je trouve que c'est un manque de respect pour les deux joueurs. Benzema,
comment
c'est
un manque de respect. Vous êtes de grands joueurs, les joueurs, c'est automatiquement les gens vous comparent.
Non, parce que
c'est normal que les gens vous comparent.
C'est deux légendes en fait.
C'est pas des légendes déjà, c'est des footballeurs. La légende.
Pour moi, ce sont deux légendes.
Son meilleur joueur préféré, c'était Ronaldo. Et son meilleur entraîneur préféré, c'est Zidane.
Ouais.
Et si aujourd'hui Benzema il a fait une carrière au Real de Madrid. Il a le respect de Zizou, de Zidane, qu'il l'a
mis en poursuite avec.
Oui, mais de là à toujours comparer l'un et l'autre, je trouve ça, pas ça correct. Après, c'est pour Zizou. En revenir justement à cette histoire de Benzema, on est en train de lui demander la lune alors que ça fait à peine un mois qu'il est avec ce collectif, qu'il se prépare avec eux. On a du mal, ils ont du mal à se trouver, on le voit très bien. Si la France ne marque pas, c'est pas que à cause de Benzema.
Non,
c'est tout ce qui se passe autour. On le voit redescendre avec l'équipe. Il est quand même. Moi, je trouve qu'il joue quand même très très bien. Ce qu'il propose, c'est quand même du foot de très haute qualité. Et à un moment donné, il faut aussi le temps au temps. Il faut laisser le temps au temps. Donc il y a, il peut pas arriver comme ça dans une équipe qui joue, un collectif qui joue ensemble depuis 3, 4, 5 années sur des grandes échéances mondiales ou européennes et lui dire, mec, t'arrives demain, tu plantes 5 buts, ça marche pas comme ça.
Ouais. Ah ben ça. C'est bien dit.
Avant d'en mettre 5, faut en mettre 1. C'est justement, enfin sur ce plateau, après, moi je pense qu'il faut pas apparaître de nos confrères de l'équipe ou je sais pas quoi.
Oui, mais on s'en fout.
Nous sur ce plateau, on est 4. Aucun de nous 4 n'a douté des qualités de Benzema ou de ses capacités à marquer dans les matchs coup près. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'on essaye de voir comment est-ce qu'il pourrait être plus à l'aise dans cette équipe de France.
On ne peut pas douter de la qualité d'un joueur comme Benzema. Ben non. Aujourd'hui, c'est le meilleur attaquant du monde.
Non, mais
on ne peut pas. Donc, c'est pour ça que les gens sont très exigeants avec lui.
Ben bien sûr,
ils sont exigeants parce que.
On est exigeants parce qu'il
porte des espoirs. L'équipe de France est champion du monde de titre. On attend qu'elle gagne l'Euro.
Comme on le disait tout à l'heure, le système de jeu actuel, il est quand même beaucoup plus défensif qu'on.
Donc, c'est des gens qu'il faut virer.
Non,
tu l'avais dit tout à l'heure.
Allô
Zidane, il faut que tu arrives. C'est ça.
Mais non,
tout à l'heure tu nous disais.
Oui, j'ai dit que certaines personnes ont réclamé que
Zidane, c'est la clé.
Peut-être pour faire marquer Karim Benzema.
Les gens qui réclament du monde sur les réseaux sociaux, très souvent c'est des mecs qui n'ont jamais mis le pied sur un terrain ou ils ont arrêté de jouer quand ils avaient 15 ans.
Ouais, ça c'est
un droit de penser.
Parce que demander Zidane en équipe de France, il faut aller jouer au football.
Alors il y a des mecs qui demandent Zidane, il y en a qui demandent Giroud, il y en a qui disent bientôt on va te demander toi sur le terrain. Qu'est-ce qu'on va faire?
Si je demande, moi je les mets les buts. Hein. Écoute, je te promets que je vais les mettre. Hein.
Yacine, attention, Jen. Attention.
Et je te promets que je vais les mettre. Hein.
Et je serai ton agent.
Voilà, donc.
Il y aura un boulard.
Juste pour finir. Hein.
Allez.
Pour finir.
Oui, on va finir de toute façon.
C'est Karim.
Ouais.
Ne comprend pas.
Et nous écoute ce soir.
Qu'il doit être le patron de l'équipe de France.
Ouais.
Si c'est dans sa tête.
Bien sûr.
Il se la met pas.
Ouais.
Je pense qu'il marquera aucun but.
Aïe, Yacine, c'est assez dur. Hein. C'est assez dur.
Que tu il faut qu'il sache que c'est lui le patron. Ouais.
Il doit prendre
le l'unique patron. Les autres vont fonctionner pour lui. Mais après,
s'il
se met au niveau des autres. Après, là où il est intelligent, c'est qu'il y va doucement. Il n'a pas le temps d'aller à ce niveau-là pendant 5 ans. Il est revenu.
Ouais.
Tu peux pas y aller de manière frontale.
Voilà, tu peux pas. À un moment donné, il y a tout. Il y a tout qui est réuni aujourd'hui pour qu'il fasse un.
Il y a tout qui est réuni pour qu'il. Quand tu joues avec des attaquants comme Griezmann, Mbappé, quand tu as mis le terrain royal comme Kanté, Pogba, Tolisso, je pense que c'est une équipe de rêve. Si t'arrives pas à briller avec ça, c'est qu'il y a un problème, mon ami.
Ouais.
pas lui.
Un grand merci.
Le problème, c'est pas lui.
On parlait de Dembélé, forfait.
Ouais, Dembélé, c'est ça, forfait. Tu veux en dire un mot, si tu veux, avant la fin de cette émission.
C'est juste la mauvaise nouvelle.
C'est ça, pour l'équipe de France de football.
C'est ça, qui était quand même un joker assez important pour l'équipe de France.
Magnifique joueur.
On ne pourra pas remplacer. Donc voilà.
Et comme quoi, Karim Benzema prend trop de place. Hein. Et oui, on en parle beaucoup. Hein. Et c'est pour le plus grand plaisir de Gian, mon corbula. Et Vivien aussi.
Tu peux pas aujourd'hui. Et Yassine. Et aujourd'hui, tu mets hashtag Benzema. Pense que c'est le nom qui est le plus tapé sur Google. Hein.
Parce que Benzema. Hashtag Gian.
En tout cas, oui, pourquoi pas. Voilà, il fait son coup de pub.
Hashtag Gian Academy.
Allez, merci Gian, merci Vivien.
Je vais faire ça après.
Et Yassine, ainsi que vous, chers auditrices et auditeurs de Beurre FM, toujours de plus en plus nombreux et nombreux. À nous suivre sur ce créneau horaire, la suite des programmes qui arrive avec notamment Vanessa à 22h. Vanessa, et nous on se retrouve dès demain à partir de 19h.
Vanessa, allez.
Retrouvez Time Foot spécial Euro 2021 du lundi au vendredi de 19h à 21h sur Beurre FM.